Émission En Jase, ton émission du midi sur Boulevard 102. Il est présentement midi 1 minute. Vous le savez, je vous le rappelle, 418-971-1021. Pour nous joindre, réagissez, on va parler de plusieurs sujets d'actualité aujourd'hui. Notamment de troisième lien, on ne peut pas passer à côté. On va jaser également d'immigration avec Maxime Lapointe, l'avocat spécialisé. Ça va être aux alentours de 13h. On va avoir l'excellent caucus avec Antonine Niaccarini. On va revenir sur le Super Bowl, le show de Bad Bunny, les publicités du Super Bowl. Bref, on a un show très intéressant pour vous et très divertissant. Par la suite, vous pouvez également nous rejoindre via l'application BLVD 101 sur App Store, Google Play Store. Haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD », c'est ce que j'ai fait en fin de semaine. Puis bang, le rock and chill embarque dans ma radio le samedi et le dimanche matin. Quel bonheur! Twitch.tv BLVD. /FM, donc c'est pour nous joindre sur Twitch. Venez nous voir, on est toujours heureux d'être disponible pour vous. Le BLVD.fm, c'est les meilleurs moments. Et également la web radio pour nous écouter. Et tant qu'à être avec Mathias Turcotte, notre journaliste sur le terrain, qui sera mon co-animateur pour les deux prochaines semaines parce que Pascal CV est absente. Et si t'es pas citoyen commercial, BLVD.fm pour le rejoindre. Il va se faire un plaisir de creuser vos dossiers. Mathias Turcotte, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien. Là. Malheureusement, nous, on est aux frettes, contrairement à Pascal qui profite du beau soleil de l'Australie.
Exactement. Mais
ça va bien quand même.
Oh oui, on est bien à Québec. Il y a un beau soleil. D'ailleurs, tiens, je vais en profiter pour faire une petite météo rapide. Moins 7 degrés ensoleillés pour aujourd'hui. Moins 7 généralement ensoleillés pour mardi. Moins 7 neige intermittente pour mercredi. Moins 6 jeudi. Puis moins 8 vendredi à plus long terme. Fait qu'on est pas mal dans une très, 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 très belle semaine d'hiver. Antonine Niaccarini, t'as passé un beau week-end?
Oui, très beau week-end.
Ouais, cool. Excellent. Moi aussi, passé un très, très beau week-end, honnêtement. J'ai vu plein de gens fêter du Super Bowl hier chez mon frère. Coacher au hockey, bref.
Un beau week-end.
Oh, un petit peu aussi avec ma blonde, ça me tient un petit peu en tête à tête.
À la maison ou au resto?
Non, on est allé au Bâton Rouge.
Oh!
On s'est payé un petit resto.
On a mangé des petits ribs.
Ouais, on avait reçu des cartes cadeaux. Ah. Donc, on est allé manger ça. On a eu ben du plaisir. Puis, c'est ça. Quand on est revenu à la maison, le beau Edou est revenu de jouer au hockey d'or avec ses amis. Puis, on a joué à Uno No Mercy. Avez-vous déjà joué à ça?
Oh, ben Uno beaucoup, mais No Mercy.
Hey, No Mercy, c'est parce que tu peux piger, là. Il y a jusqu'à des plus 10 en carte. Mais, admettons que tu mets plus 4.
Ça, c'est un plan pour faire pleurer mes enfants.
Ouais, mais admettons que tu mets plus 4. Oui. Là, moi, je mets plus 4. Ça m'attire, ça joue. Il peut répliquer avec un plus 4. Fait qu'on est rendu à plus 8. C'est à toi. Tu dis, parfait, je mets plus 6. Fait qu'on est rendu à plus 14. Genre, ouais, moi, je mets plus 10. Bang, Matt pige 24-4.
Fait que c'est un Uno qui dure 5 heures dans
ouais,
le fond.
Ouais, ça dure longtemps. Quand t'es rendu
c'est comme à Monopoly, là. Tu sais, quand ça finit ouais. plus puis que les enfants ouais. pleurent parce qu'ils sont en faillite. Là.
C'est ça. Quand t'es rendu à plus de 50 cartes, tu perds. Fait que Val a été éliminé à plus de 50 parce qu'à un moment donné, quand on a tourné, je pense qu'on a fait piger 36.
No mercy.
No mercy. Puis, mais ce qui est le fun, Bam, c'est que t'as une carte que tu peux mettre, puis ça t'enlève toutes ces cartes-là de la même couleur.
Ah.
Fait que, supposons, tu mets une carte, tu dis, OK, moi, je vide mes bleus. Mais là, t'as tellement de cartes, à un moment donné, tu te ramasses, moi, je fais des paquets. OK, ça, c'est mes jaunes, ça, c'est mes rouges, mes verts, mes bleus devant moi, mes noirs, mes spéciales. Puis là, il y a une carte spéciale aussi que tu mets, tu décides de la couleur, puis là, la personne doit piger dans le paquet. Jusqu'à temps qu'elle tombe sur la couleur que
là,
t'as décidé.
Là, tu m'as perdu. Puis je dois dire que ça m'arrive souvent. Quand on, à notre âge, là, Mathias, ouais. là, quand on fait des soupers d'amis, ça se termine beaucoup plus souvent en jeu de société que de sortir.
Ah, ben clubs, okay? Oui.
Et des fois, mettons, tu as quand même bu quelques verres de vin, t'es un peu fatigué de ta semaine, et là, quelqu'un veut vraiment t'expliquer un nouveau jeu de société.
Ah, oh, ça, impossible.
Je quitte cette dimension. Des fois, honnêtement...
Ah, c'est là, impossible. Mais... Je l'ai dit à ma blonde, moi, on trippe à jouer des jeux de société. On trippe à jouer des jeux de société avec des amis. J'ai dit, si tu sors un nouveau jeu, explique-moi-le dans l'après-midi.
Exact.
Parce que si tu me l'expliques pas dans l'après-midi, tu me l'expliques un peu, quand je vais commencer à être un petit peu chaud d'ail, oublie ça, tu vas parler le chinois.
Exactement.
Puis ça te tente pas d'écouter non plus.
Non.
Puis là, tu t'en viens pas pire. Puis ouais. là, t'as d'autres amis qui te parlent en même temps. C'est tough, ça.
Ah,
parce que
oui.
même si je suis jeune, des fois, je sais c'est quoi des jeux de société.
Bien
là,
sûr,
mais...
bien sûr.
Non, écoute,
mais non, c'est
un nouveau jeu de société.
Quand tu t'en viens chaud, c'est quelque chose.
Oh oui, c'est difficile.
Oui, il y a un jeu très, très simple auquel on joue, c'est qu'on demande à ChatGPT de nous sortir des quiz. sur n'importe quel sujet. Oui. Puis on a vraiment du fun avec ça. Et honnêtement, c'est pas très compliqué comme règle.
Mm-hmm. Puis donc, ça coûte rien.
Ça coûte rien, puis c'est nouveau à chaque fois. Puis honnêtement, moi qui n'ai pas une grande fan de l'intelligence artificielle, je trouve que c'est un très bon usage.
Hey, il y a un auditeur, une auditrice qui m'écrit à Uno No Mercy, c'est 25 cartes qu'on doit avoir pour accumuler, pour être
éliminé. Tu vois, t'as rien compris aux règles. Exactement ce qu'on
disait. C'est ça que t'avais-tu une coupe de verre quand t'as expliqué les règles?
Pourtant, c'est ma blonde qui m'explique les règles, puis c'est elle qui est éliminée à 54.
Tu l'écoutes pas? Tu vois, t'écoutes pas ta blonde. Voilà.
Oh, Seigneur Dieu. Oh, les
faut
hommes
écouter
blancs.
Quand on parle.
Les hommes blancs.
Ah, oh, les hommes blancs.
Ah, oh, les hommes blancs. OK, Mathias Turcotte, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité avant de passer à l'excellent caucus avec Antonine Iaccarini?
Ça, c'est un dossier qui va refaire surface cette semaine puis qui va être beaucoup présent la semaine prochaine. La fameuse commission Galant sur un dossier SAG qu'on en entend moins parler depuis plusieurs mois, c'est normal. Là, on est en train de bâtir ce fameux rapport-là qui va être déposé le 16 février, qui va être rendu public le 16 février prochain. Eh bien, Carl Malenfant, vous vous souvenez de lui, là, de vice-président de la transformation numérique chez, justement, la SAG durant toute la saga SAG-CLIC, du moins qui était là durant la majorité du projet, a annoncé qu'il allait faire une conférence de presse accompagnée de son procureur Jean-François Bertrand. Le but de cette conférence de presse-là, c'est de remettre les événements dans leur ordre de façon structurée, de façon que ce ne soient pas des petites bribes isolées, qu'on dit. On va présenter des éléments de preuve qui vont être liés entre eux puis qui vont prouver que M. Malenfant a pris des décisions tout au long de l'évolution de la transformation, des décisions logiques. Donc, c'est un peu en prévision du rapport qui va être déposé justement la semaine prochaine, en fait, cette semaine, le 16 février. Réseau de transport de la capitale qui est touché par des compressions de 200 millions. C'est le gouvernement du Québec qui avait annoncé se retrancher 200 millions de son programme d'aide au développement du transport collectif. Du côté du RTC, ça veut dire 18 millions sur 3 années. En 2025, on avait déjà prévu de 6 millions en question au budget. Eh bien là, on va devoir trouver des moyens de pallier à ce manque à gagner qui est présentement en raison du côté du gouvernement provincial.
Nicolas Girard, directeur général du RTC sera avec nous en entrevue demain à 13h, ce qui fait en sorte qu'on va devancer un petit peu Rémi Villemur, qui d'habitude à 13h va être à 12h45.
Sondage Somme le soleil sur le troisième lien nous apprend que les Québécois, surtout dans la région de Québec, n'ont plus confiance que le projet va se réaliser. C'est 68% des habitants de la région de Québec qui ont plus confiance qu'on va voir un jour ce projet-là se réaliser. Seulement 27% qui ont confiance. Donc environ une personne sur quatre présentement qui disent « oui ». On va avoir un troisième lien. On va s'entendre, c'est quand même assez bas. 55% qui sont favorables au projet de tracé central présenté par la CAQ. Là. Puis il y a une grande baisse, notamment à Lévis. On est passé de 70% d'appui à 53% de ce qu'on explique du côté de Somme. C'est surtout en raison du tracé qui est présentement offert du côté de la CAQ, le fameux tracé central. Et je termine avec l'ex-ministre François Bonnardel, qui a été ministre des Transports et de la Sécurité publique pour le gouvernement caquiste, qui a annoncé son appui à Christine Fréchette aujourd'hui. Donc, un appui de plus du côté du camp Fréchette. Un appui quand même important, considérant que c'est le dernier représentant plus officiel de l'Action démocratique du Québec, de la DQ.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Iaccarini dans Le Caucus. Anto, François Bonnardel qui donne son appui à Christine Fréchette. C'est pas rien, parce que comme Mathias nous le disait, c'est le dernier maillon de l'ADQ au sein de la CAQ.
Ben, il y a Éric Kerr aussi.
C'est vrai, on oublie.
Ah, vous l'avez oublié.
On se demande pourquoi on l'oublie.
Bon. Ben là, Éric se fait oublier parce qu'il avait dit qu'il mettait son siège en jeu sur le troisième lien. Il se fait oublier parce qu'il a été ministre de la cybersécurité et de la transformation numérique durant le fiasco SAG-CLIC.
C'est pour ça
que nous autres aussi, on l'oublie, Caroline.
Bon, alors je reviens à François Bonnardel. C'était une petite blague parce que c'est vrai que c'est énorme comme appui. Hein. C'est comme la caution à des kystes et c'est à la mode là, de parler que la CAQ veut se recentrer autour de son ADN à des kystes. C'est un coup dur pour Bernard Drinville,
ben
on peut le dire. Là.
C'est clair. On écoute d'ailleurs ce qu'il avait à dire, parce que Mario Dumont lui a posé la question ce matin. « Hey, je comprends pas pourquoi vous appuyez Christine Fréchette. C'est Bernard Drinville qui se présente comme le représentant de l'ADQ en étant au centre droit. Voici comment il expliquait le tout. »
Ben, Christine a pris un engagement immensément important, le voilà presque 10 jours déjà, de rembourser la taxe de bienvenue sur le coût d'une maison pour les premiers acheteurs. Donc ça, c'est une idée qui était immensément bonne pour les premiers acheteurs, bonne pour les Québécois. La transparence syndicale, le coût de la vie, comme j'ai mentionné, l'efficacité de l'État, ce sont des sujets immensément importants sur lesquels Christine va continuer de pousser avec nous.
Alors voilà, donc il situe Christine Fréchette à droite, notamment avec sa promesse sur la taxe de mutation.
Ben, je pense que ce que François Bonnardel nous invite à faire, c'est d'aller au-delà des slogans. Mm-hmm. Donc, il a donné des exemples concrets en disant visiblement, j'achète pas nécessairement là, ce que Bernard Drinville me dit, c'est-à-dire c'est moi l'héritier de l'ADQ, c'est moi qui porte l'ADN de l'ADQ au sein de la CAQ. Puis probablement que ce qui motive aussi la décision de François Bonnardel, au-delà peut-être d'affinités personnelles, hein, parce qu'il y a toujours ça aussi en politique, bien, c'est les sondages. Parce que on regardait ensemble en fin de semaine, toi et moi, Jeff, là, la projection de sièges par l'agrégateur de sondages Québec 125. Une CAQ, présentement, là, une CAQ menée par Bernard Drinville, s'il y avait une élection, c'est 74 sièges pour le PQ, 39 pour le Parti libéral, 8 pour le Parti conservateur, 4 pour QS. Et pour la CAQ?
Zéro.
Un gros
tout le monde
zéro.
Perd sa job.
Alors qu'avec Fréchette, la CAQ aurait 28 députés. Donc, la différence, elle est énorme. Ça veut dire aussi un PQ qui serait minoritaire. Mm-hmm. Donc, avec une chance, peut-être une fenêtre d'opportunité pour rebondir, même si la CAQ ne gagnerait pas nécessairement l'élection. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de CAQistes qui veulent aussi être pragmatiques. Parce que la CAQ, oui, a l'ADN à des kisses, mais il y a aussi le désir de gagner. Et c'est des gens qui se sont mis ensemble en faisant beaucoup de compromis, des fois, sur leurs valeurs pour gagner.
Ben oui.
Il ne faut peut-être pas exagérer de ce côté-là non plus. Mais je pense que François Bonnardel, avec ses 19 années derrière la cravate comme député, il a été élu en 2007. Là. C'est un doyen là, de l'Assemblée nationale avec François Legault et d'autres députés qui ont été élus il y a très, très, très longtemps comme ça. Donc, c'est un appui qui est important et ça doit être un peu difficile présentement pour M. Drinville, qui n'a pas d'appui de pilier. Hein. Il y a quelques appuis intéressants. Je pense à Karianne Bourassa, à Samuel Poulain. Il y a des appuis qui vont faire la différence, qui vont être très actifs, qui font beaucoup de communication pour lui, qui vont aller acheter des cartes de membres. Mais vraiment, les piliers de la CAQ, parce qu'il y en a d'autres qui vont rester neutres. Je pense à Geneviève Guilbeault, notamment Simon-Jolin Barrette, Éric Girard. Tu sais, ça s'arrêtait des gros
Jonathan
noms.
Jonathan Julien dit qu'il resterait neutre également.
Ben oui, finalement. Et il reste quoi là, comme gros appui? Moi, je vois un Lionel Carman comme un appui intéressant.
Oui.
Point de vue santé, notamment, et peut-être un peu plus apaisant là, si on dit, ah ben moi, je pense qu'avec ce chef-là en santé, on va être capable de faire des choses. Il reste Christian Dubé. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Christian Dubé, mais c'est plus compliqué.
Ça m'étonnerait qu'il se positionne.
Qui sait? On ne sait pas hein, qu'est-ce qui peut arriver, mais disons que les gros morceaux sont pas mal placés et que Bonnardel s'en était un très, très gros. Donc, c'est un bon coup pour Christine Fréchette. Là, ça va être vraiment la vente de cartes de membres aussi qui va faire la différence dans les prochaines semaines. Parce qu'avec 15 000 membres, la CAQ, c'est un parti que s'il y a quelqu'un qui se mobilise assez fort, tu es capable de faire un takeover.
Bon, ouais, tu es capable de renverser.
Ben, oui.
C'est une des raisons pourquoi on ne voulait pas de candidats de l'extérieur aussi comme Olivier Primeau. Si on regarde la course à la chefferie jusqu'à présent, je te fais écouter un montage des deux premières semaines.
Je pense qu'il faut planifier la création d'un nouveau lien, tenant compte de ces caractéristiques-là, des ponts qui sont très avancés. Mais encore là, je vais aller à la rencontre des gens dans ces deux régions-là.
Donc, ouverture,
puis
un
dans
troisième
les
lien, mais vous verrez selon les besoins.
Selon les
de
besoins
Québec.
Identifiés, oui.
Troisième lien, vous savez, avance-recul, ça nous a beaucoup nuit en termes de crédibilité. Je pense qu'on avait pris un engagement, on aurait dû le respecter. Les gens veulent qu'on respecte notre parole. Et puis là-dessus, les gens de ma région ont l'impression d'avoir été un peu floués.
Là, tu vas me dire, voyons, Jeff, tu te trompes, Kim? T'as fait un montage du troisième lien.
Ben oui.
C'est ça, c'est la course à la chefferie. C'est la course au troisième lien, la course à la chefferie de la CAQ.
C'est fou, hein, comment ce sujet-là prend tellement trop de
place. C'est pour ça, là, tu comprendras mon sarcasme avec ce montage-là.
Oui, moi, j'ai compris. J'espère que les gens à la maison comprennent Jeff et sarcastique. Oui, c'est pour ça. Exactement. Écoute, vraiment, tout le monde se pose la question, là, est-ce qu'on peut parler d'autre chose que le troisième?
Oui.
Bon, aujourd'hui, la nouvelle de Bonardel, ça change un peu le sujet parce que sinon, on en aurait parlé encore probablement toute la journée. Et je pense qu'on va en parler encore beaucoup, parce que c'est l'intérêt de M. Drainville de continuer d'en parler. Lui qui essaie d'apposer l'étiquette de personne hésitante qui manque de leadership à Christine Fréchette, et il veut continuer à brasser la cage parce que la tendance, pour l'instant, est favorable à Mme Fréchette du point de vue des sondages, du moins. Là, il va y avoir des débats aussi. Mais les débats arrivent tard. Je n'ai pas sorti les dates pour mal faire, mais ils arrivent un peu tard.
Ouais, 21-28 mars, mais tu peux vendre des cartes jusqu'au 12 ou 13 mars. C'est ça que je trouve bizarre. Il me semble qu'il aurait dû avoir un débat avant pour intéresser aux gens à acheter une carte.
Je suis d'accord. Ça aurait pu intéresser les gens d'acheter une carte. Bon, maintenant, est-ce que les gens vont avoir sûrement déjà un peu pris aussi leur décision avant les débats, ce qui est un peu bizarre? Est-ce qu'il y a tendance à avantager la candidate moins connue un peu? Ouais. Parce que les gens ont déjà une opinion de Bernard Drainville. Ça, c'est fait. Mais est-ce qu'ils ont déjà une opinion claire de Christine Fréchette qui se préserve beaucoup? Elle fait quand même beaucoup d'entrevues, faut lui donner. Puis c'est vrai que l'avantage du meneur dans une course, c'est pas d'aller se mettre en danger dans 12 débats, là, puis de se fatiguer à faire 12 débats. Donc, M. Drainville risque de continuer aussi là, de mettre de l'avant qu'elle est trop prudente, qu'elle hésite, qu'elle préfère ne pas trop débattre pour continuer de s'avantager. Donc, On verra si les membres de la CAQ, ça les dérange vraiment. Et si M. Drainville continue de brasser la cage, au point même, là, je vais aller un petit peu ailleurs, mais de créer des divisions qui pourraient laisser des traces pour la suite. Parce que ça, c'est le risque d'une course à la chefferie. C'est qu'à un moment donné, tu y vas tellement fort, puis tu attaques tellement l'autre, qu'après la victoire d'un ou l'autre, bien, c'est dur de recoller les pots cassés.
Bien, vraiment. Puis là, on est vraiment campé dans un débat régional Québec-Montréal, tant qu'à moi, là, jusqu'à présent, de la façon que Bernard Drainville l'amène.
De la façon que lui l'amène.
Oui.
Mais la manière dont Christine Fréchette l'aborde, c'est un peu différent parce que je pense pas qu'elle est contre. Là, évidemment, on spécule un peu parce qu'elle l'a pas dit clairement. Mais c'est vrai qu'il y a un débat encore sur le tracé. Puis c'est vrai que c'est une infrastructure qui vaut des milliards de dollars et même si on hésite depuis des années, moi, je fais partie des statistiques que Mathias apportait tantôt, c'est-à-dire, moi, je suis pour, mais j'y crois comme plus aussi parce que peu importe le projet qu'on nous a présenté dans les dernières années, on a pas mal retourné toutes les pierres. Là,
et voilà.
Puis il n'y a pas un projet parfait. C'est un petit peu compliqué présentement là, d'y aller. Ah, oh, ça, c'est go! Là, on y va là, à fond, là, puis on dépense 10 milliards pour ça, là, ça vaut la peine.
Mais j'ai l'impression que c'est presque juste un projet que la CAQ ne peut plus porter. Ne peut plus se faire prendre.
Exact. La crédibilité est trop entachée.
Que peu importe comment qu'on le retourne, à partir de maintenant, la population, même ceux qui sont pour, quand la CAQ va dire « on va faire un troisième lien », on aimerait presque plus qu'au final, on fasse juste rien parce qu'on se dit « ça va être encore du niaisage puis de l'argent dépassé dans le vide parce qu'on va jamais le faire ».
Oui, puis honnêtement, l'erreur, ça a été de le réanimer. Une fois qu'ils ont tiré la plug au printemps, puis qu'après ça, 6 mois plus tard, pendant l'élection partielle dans Jean Talon, le premier ministre a changé d'idée. C'était terminé, il n'y a plus d'écoute de ce côté-là. Maintenant, tu sais, moi, j'espère vraiment que Mme Fréchette veut arriver soit avec un projet qui est mieux. Honnêtement, je garde un peu espoir, là, parce que je pense qu'on ne devrait pas être idéologiquement contre un troisième lien à Québec. Les gens qui sont contre à tout prix, je trouve ça aussi fou que de se garrocher dans n'importe quel projet, honnêtement.
Je suis tellement d'accord.
Et je trouve aussi qu'on attend beaucoup à la dernière minute pour faire des infrastructures ou réparer des infrastructures au Québec. Je veux pas qu'on attende, là, comme on a fait avec le pont Champlain à Montréal, qu'il soit en train de tomber à terre, puis il a fallu mettre une poutrelle à coups de milliards pour tenir le pont pendant qu'on faisait l'autre.
Exactement.
Donc, soyons intelligents, mais ça veut dire aussi de dépolitiser un peu les débats de transport, et je n'y crois pas trop, mais bon, qu'est-ce que tu veux?
Je le répète depuis 2015 qu'on serait censé être en travaux, que ce soit pour un réseau de transport structurant et un troisième lien, les deux. Ça faisait partie du réseau express de la capitale. Donc, normalement, aujourd'hui, en 2026, c'est un SRB à l'époque. Le SRB devrait rouler sur nos rues, puis le troisième lien devrait être conçu. Point puis, encore à se poser la question.
Puis, si t'es d'accord, je ferai le lien avec un autre sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui.
Oui.
C'est en lien avec les infrastructures. Parce que moi, ça me passionne, les infrastructures. Quand on dit infrastructure, en passant, c'est un terme un peu vide, mais ce qu'on veut dire, c'est des ponts, des routes, des hôpitaux, des écoles, nos infrastructures publiques, aqueducs, égouts, etc. On le sait qu'on est déjà dans une situation où est-ce qu'on s'en va dans le mur en termes de maintien de nos infrastructures. Puis évidemment, politiquement, on aime toujours mieux annoncer des nouvelles infrastructures.
C'est mieux couper un ruban, faire une belle conférence de presse, puis dire « regardez comment je suis beau », que dire « ouais, je vais m'occuper de l'aqueduc ».
Hey, c'est pas glamour en campagne électorale.
C'est plate, ça, s'occuper de l'aqueduc.
Bon, ben c'est ça. Moi, je pense qu'on devrait commencer à trouver ça pas plate, des politiciens qui nous promettent de maintenir nos infrastructures. Et là, en plus, j'ai vu une étude intéressante qui a été publiée ce matin de l'Institut climatique du Canada. Parce qu'en plus de l'état déplorable de nos infrastructures un peu partout, il y a des changements climatiques et il faut s'adapter à une nouvelle réalité climatique. Et ça, ça coûte encore plus cher. Puis on nous parle beaucoup d'adaptation au changement climatique et des investissements qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne les fait pas maintenant, ces investissements-là, ça va nous coûter encore plus cher dans quelques années. Puis c'est ce que l'étude démontre, c'est que si on faisait mieux les projets maintenant, donc des projets d'adaptation, mais aussi nos nouvelles infrastructures, mettons un troisième lien, il faut tout de suite mettre un petit peu d'argent supplémentaire pour s'assurer que c'est bien adapté au changement climatique. Il y a de l'eau supplémentaire, des intempéries supplémentaires, les sols vont changer, etc. Sinon, ça va nous coûter 2 à 3 fois plus cher de toute façon dans quelques années. Et ça, là, ça vient, il y a un lien à faire avec comment nos appels d'offres sont faits, comment la gestion, la planification des projets sont faites. Et on n'est vraiment pas bon au Québec.
On est trop dans l'instantanéité puis le faire passer le projet au plus bas coût possible.
Exact.
Au lieu d'expliquer aux gens, hey, écoutez, là, je vais donner un exemple fictif. Là. Écoutez, cette nouvelle route-là qu'on construit, là, ça va être 4 milliards.
Elle puis va là, être que un le monde s'injure.
Ouais, exactement. Ah, 4 milliards pour une route, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais attendez, il y a les changements climatiques, il y a ci, il y a ça. Pac, voici pourquoi on l'amène même. Parce que en coût d'entretien puis en longévité, voici ce qu'on gagne
exact.
Si on prend 4 milliards au lieu de 2,5 milliards. Tu sais, je suis toujours dans mon exemple fictif. Les gens comprendraient.
Bien, je ne sais pas si les gens comprendraient. Il faudrait commencer à essayer de faire ça parce qu'on pense vraiment à court terme politiquement. Puis il y a aussi des impératifs budgétaires, c'est-à-dire qu'un ministre des Finances doit déposer un budget et un PQI, les investissements qu'on fait dans, justement, nos infrastructures pour les projets. Puis quand tu exagères trop une année, par exemple, quand tu augmentes trop le PQI puis tu mets trop en infrastructure, tu risques la décote. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le gouvernement Legault, c'est qu'il y avait un déficit d'investissement en infrastructure qu'ils ont voulu rattraper et on a été décoté à cause de ça. Donc, François Legault a beau essayer de s'expliquer en disant « Oui, mais il faut qu'on donne un coup des infrastructures. » Évidemment, on dit « Ah, oh, vous avez été décoté, vous n'êtes pas bon. » Donc, il y a un coût politique aussi à faire ces investissements-là.
Clairement.
Je te donne un autre exemple. Tu construis un nouveau bâtiment gouvernemental. Puis là, on te dit « Faut que tu rentres dans 12 millions. » Faut que ça coûte 12 millions. Donc là, tu vas faire des choix à court terme pour rentrer dans ton 12 millions. Par exemple, le système de chauffage, au lieu de mettre une thermopompe puis de t'assurer de géothermie, etc., bien, tu vas mettre du gaz naturel parce que ça coûte moins cher à installer. Mais après ça, tu vas payer ton gaz naturel pendant 40 ans.
Exactement.
Ça, tu ne le calcules pas sur le coût. Mais ça va nous coûter plus cher, mais ça a l'air plus beau sur papier. Ça va juste coûter 12 millions.
T'as raison.
En tout cas, fait que c'était mon message du jour et cette étude là, vient nous démontrer et vient confirmer en fait que quand tu ne payes pas pour, tu payes pour.
Mais tu fais bien de nous en parler, puis mettons de la pression, ça en va en campagne électorale.
Exactement.
Donc, je veux que les gens, nous-mêmes dans les médias, on mette de la pression là-dessus sur notre gouvernement pour qu'au moins, quand on conçoit des infrastructures, tout se passe bien.
Puis, je veux dire, le gouvernement donne de moins en moins d'argent aux municipalités pour organiser ces infrastructures-là. Là, c'est ça qu'on nous avait présenté au bilan des actifs de la ville de Québec.
Oui, chicane avec Ottawa.
C'est ça, ça finit jamais bien.
Il empêche, oui, c'est ça. Pour des raisons de juridiction, on empêche des fois le fédéral de transférer de l'argent aux municipalités. Mais c'est vrai que les municipalités se plaignent énormément qu'il y a vraiment un déficit d'investissement dans les infrastructures et que les villes sont très limitées dans leurs moyens pour aller chercher de l'argent. C'est la taxe foncière, puis quelques petites tarifications. Mais bref, on s'en va vers un mur. Et disons que ce qu'on a à investir là, en termes d'infrastructures, on parle de 20% des infrastructures de transport qui sont dans un état critique, mais les municipalités, là, c'est beaucoup plus que 20%.
Ah, vraiment?
Les infrastructures municipales sont dans un état pas possible. C'est un défi collectif. C'est pas vrai que c'est juste un maire, une municipalité tout seul qui peut régler ça. C'est un enjeu de société.
On est dans le caucus avec Antonine Iacarini, segment qu'on fait du lundi au jeudi à compter de 12h05 jusqu'à vers 12h30, 12h35. Continuez à interagir au 418-971-1021. J'aime ça voir que notre entrevue avec Pascal Paradis qu'on a fait jeudi dernier vous encore fâche, vous fâche encore, devrais-je dire. Il y a des gens qui disent, voyons le PQ avec leur septième voie sur le pont Pierre-Laporte, voyons le PQ avec les camions lourds sur le pont de Québec, parce qu'on a demandé à Pascal Paradis, vous êtes contre un troisième lien, c'est quoi vos solutions de rechange? C'est les deux solutions de rechange qui nous a parlé, et les gens sont vraiment en très, 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 très grand désaccord en majorité. Antoine, moi, j'étais super content. Je suis arrivé vendredi, puis j'ai dit, ah! Mon commissariat aux langues officielles me parle des deux langues. Comment ouais. C'est le fun! Puis là, j'ai dit, hein, tu m'as lu, moi? Je m'excite la queue à parler l'autre langue. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, coudonc, je me suis-tu trompé de site web? Je suis rendu sur Pornhub.
Ouais, c'est ça. Dans quel genre de site web?
Ben oui, là, j'étais vendredi après-midi. Là, j'étais comme, mais vendredi après-midi, je. Pas que c'était le même d'habitude le vendredi après-midi.
En tout cas,
ils
ont accroché ton attention.
Ils ont accroché mon attention, certains. Mais hey, ça fait-tu dur?
Hey, ça n'a aucun bon sens.
C'est pas un commissariat aux langues officielles, là. C'est un commissariat de l'anglais. Là. Puis ouais. On va essayer de se débrouiller en français.
C'est ce que Gilles Duceppe disait à l'époque. Il dit il y a deux langues officielles au Canada, l'anglais et la traduction simultanée. Ouais. Ben, voilà. On est vraiment là.
Écoute, on est allé sur Google Translate, tu penses?
Non, je pense pas. Mais. Écoute bien ça. Donc, vas-y. Une publication vendredi qui nous invite à parler l'autre langue officielle, hein, qui nous invite ouais. à connaître nos deux langues officielles. Puis l'image qu'ils ont publiée, c'est deux chiens saucisses qui s'entremêlent les queues. Des queues de chiens, je précise.
Oh, oui.
Et avec un cœur disant « Ma queue et mon cœur s'emballent quand tu t'exerces à parler ta deuxième langue officielle ». Ça arrive souvent là, avec le fédéral qu'on a des traductions moyennes, mais là, c'est le commissariat aux langues officielles.
Ouais, comme bâtir Maison Canada.
Bâtir Maison Canada. on se demandait, est-ce que c'est juste une erreur de traduction ou est-ce que le compte ouais. a été piraté? Ou est-ce que c'est une blague voulue? Tu sais, des fois, tu dis...
Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui se trouvait drôle. Je sais pas.
Alors, le commissariat nous a répondu ceci. « Ah, la Saint-Valentin approche et les esprits coquins s'éveillent. On ne voyait que nos petits chiens. Sachez que nos intentions n'étaient pas de sexualiser le contenu. »
Nos esprits s'éveillent.
Ils disent que c'est nous qui pensons croche.
Oui!
C'est ça que ça veut dire. Voyons donc, vous avez pensé croche en voyant des queues s'entremêler puis s'exciter. Voyons donc, vous avez pensé croche. Donc, c'est
vous
nous
savez
le problème.
Pas, c'est ça. Vous savez pas parler français, mais c'est nous autres le problème. T'sais, on comprend trop bien notre langue, Anto.
Ben c'est ça, exactement.
C'est ça, le trouble.
Mais, tu sais, moi, je parle les deux langues dans la vie. Là. Mais puis quand j'ai appris l'anglais, on m'a dit, faut que tu penses en anglais. Okay?
Oui, ça, c'est vrai.
Bon, écrire dans une langue, c'est pas juste traduire. Tu peux pas partir d'un concept puis penser que tu vas exactement le traduire de la même manière. Des fois, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Des fois, c'est des innuendos ouais. sexuels, mais c'est pas toujours ça. Des fois, ça fait juste aucun sens quand c'est traduit dans l'autre langue. Donc, c'est pas suffisant d'avoir quelqu'un qui repasse en arrière puis qui dit « oui, tous les mots sont correctement traduits ». C'est le sens
c'est le sens.
Des mots.
Ben oui.
Tu sais, puis on a vu dans les dernières années, des fois, des noms de produits qui étaient un peu bizarres. Là, je pense notamment à la voiture qui s'appelait e-tron, puis en ouais. français, ça fait e-tron. Tu sais, il faut vérifier au-delà de juste c'est-tu les bons mots comme tel. Et vraiment, c'est un échec. Et même beaucoup de politiciens s'en sont mêlés vendredi pour dénoncer. Là, puis pas seulement des conservateurs. Il y a même des libéraux qui ont dit « Voyons donc, ça n'a pas de bon
ben
sens
non, là.
Comme traduction. » Mais il n'y a personne sûrement qui va perdre sa job. Là,
non,
comme d'habitude.
Personne ne va perdre sa job. Puis Mark Carney va continuer à avoir énormément de pourcentage de votes ici au Québec.
C'est ça.
C'est pas grave. Montréal, de toute façon, on peut être député libéral, parler juste anglais, puis
exact.
Vouloir mettre dehors une mère monoparentale de son appartement.
C'est
on en a parlé avec Pierre Paulus vendredi.
Il n'y en a pas de problème.
Non, c'est disponible sur blvd.fm. On écoute la sensation de l'heure.
Que sonrían las que se olvidaron. Ya de mí me gustan mucho las Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en Quintel María y mi primera...
Plus je l'écoute, plus je l'aime, Bad Bunny.
Ça, attends, je vais le traduire de l'anglais. Ça pousse sur toi.
Oui!
It grows on you.
J'ai toujours le goût de danser quand j'écoute du Bad Bunny. Attends. Comment vous avez trouvé le spectacle de Bad Bunny hier? Moi, j'ai adoré. C'était coloré. La mise en scène était excellente. Des messages très bien positionnés, mais soft,
Ouais.
Moi, quand il a donné le Grammy au petit gars de 5 ans qui ressemblait au petit gars de Minneapolis, ouais. Écoute, j'avais la larme à l'œil. J'ai vraiment adoré le spectacle de Bad Bunny. 418-971-1021. Est-ce que vous avez aimé ou non le spectacle de Bad Bunny?
Une chose est sûre, le spectacle, je le trouvais pas mal meilleur avec l'image que juste l'audio. Hein?
Ouais!
Non, mais pour vrai, tu vois... Oui,
non, comment ça?
Non, mais je fais partie du monde qui était pas content.
Comment ça, il aime pas l'audio? Ben oui,
c'est pas mon genre de
on
musique.
On danse!
Ben c'est ça. T'aimes pas ça en
c'est
général.
C'est ça, exact. C'est pas Bad Bunny le problème. C'est cette musique de ce genre-là, j'ai plus de difficulté à réussir à apprécier. C'est le fun, c'est léger, ça te rend de bonne humeur, mais c'est pas mon genre. Par contre, le spectacle, puis j'en parlais tout à l'heure.
T'as-tu aimé le spectacle de Kid Rock?
Ouais. Ça, c'est une autre tasse de thé, mettons. Ça faisait plus dur pas mal. Mais le spectacle de Bad Bunny... Autre le fait des messages politiques qui étaient très bien placés, des messages d'espoir qui étaient bien placés, le spectacle, en général, tout simplement, là, t'enlèves cet aspect-là, puis le spectacle restait excellent.
Ben oui. C'est zéro mon genre de musique non plus, mais... Puis honnêtement, je le connaissais très peu. J'ai vu quelqu'un qui a tweeté, on écoute toujours des gens faire du lip-sync, honnêtement, à l'écouter juste l'audio, tu vois que c'est pas du lip-sync.
Non, c'est pas du lip-sync, il y a Bad Bunny.
Mais il y a pas mal de monde qui, en fait, dans le mouvement MAGA, qui ont qualifié cette performance de « un-American ».
Ouais, c'est ça. Puis là, Donald nous a envoyé un « Truth », mais le gars était sur « Truth
oui. ».
Il disait « Papa, on attend le « Truth » de Donald ». Ils ont compté les mots marqués en majuscules. Donc, soit dit en passant, mes gars ont 16 et 18 ans. Je les ai trouvés sûrement plus politisés que Donald Trump hier.
Ouais, on s'entend. Tu sais, ça fait quelques années que les spectacles de la mi-temps... Tu sais, mettons que t'es raciste, là.
Ouais.
Mettons. Peut-être que tu t'y retrouves moins. Puis c'est tant mieux. Et je suis très contente de ça. Mais là, on a atteint comme un nouveau degré. Parce que en plus, c'est pas en anglais.
Ouais, c'est ça. Mais c'est le premier artiste à ne pas le faire en anglais, mais c'est aussi le premier artiste à provenir des États-Unis à faire le show de la mi-temps.
Ben non, mon hein? Jeff, justement,
ben
les pauvres...
Ils sont donc bien un-American, les
Américains. Puis d'ailleurs, ça fait beaucoup d'artistes un-American ouais. qu'on voit, je peux en nommer quelques-uns.
Ben,
Shakira,
donc.
Qui est colombienne. Ben, The oui. Weeknd, qui est canadien, en passant. Oui. Puis là, le Canada est devenu un pays ennemi en plus. Mm-hmm. Alors, Coldplay, britannique, The Who, britannique, U2, irlandais, Sting, britannique, Phil Collins, britannique, Enrique Iglesias, espagnol, Shania Twain, canadienne. Donc, tout ça pour dire que c'est pas une affaire d'être américain ou pas. On est vraiment... Les gens qui critiquent le fait que ça a été Bad Bunny qui a été choisi, c'est pour des raisons d'opinion politique et politique seulement. C'est pas une affaire de patriotisme ou d'être américain ou pas américain. Et quand l'État ou la nation... C'est rendu lié à une opinion politique ou à un homme, parce que c'est ça carrément. Si t'es pas d'accord avec Trump, tu n'es pas américain, ben c'est un signe d'un glissement. Et je suis pas quelqu'un qui crie au fascisme facilement, qui compare tout le monde à des régimes fascistes, mais c'est un symptôme de fascisme.
Clairement.
Quand, pour être un patriote, pour être considéré un Américain ou un Canadien ou un Français ou peu importe, si tu n'as pas les mêmes opinions que le chef d'État, c'est un glissement vraiment dangereux et c'était même pas complexé dans les dernières 24 heures quand tu lisais les membres influents du mouvement MAGA aux États-Unis.
Tu as tellement raison. Et pour tous ceux, justement, qui se posent la question pourquoi on parle de Donald Trump comme ça, c'est pour ça. C'est pour empêcher que la plus grosse démocratie dans le monde vire à un État où c'est seulement le président qui décide. Et sans passant, c'est la toune « The Saints Are Coming » jouée par U2. Et Green Day, après l'ouragan Katrina. Ah, que c'est bon.
Saints avait pas gagné le Super Bowl.
Non. Mais c'est bon. Green Day qui a livré toute une performance aussi d'avant-show. Tout ça pour dire que même si U2 est irlandais, ils ont composé cette chanson-là avec Green Day pour l'ouragan Katrina. Et ils ont fait le show de la mi-temps en 2002 du Super Bowl. La même année de football que les attentats. Parce que les attentats s'étaient produits le 11 septembre 2001. Et ils ont terminé en portant un drapeau américain et en chantant une chanson spéciale pour tous les gens qui étaient décédés dans les attentats. Fait que t'as pas besoin d'être américain pour être plus américain que Donald Trump, selon moi.
On est d'accord.
Puis t'es là, on parle de la gang de Trump qui crie fort. Ça veut pas dire que c'est la majorité, parce que le spectacle de Bad Bunny est officiellement le spectacle le plus écouté de l'histoire à la mi-temps, avec 135 millions de visionnements en direct.
Antonine Iaccarini, merci infiniment pour le caucus. Je pense qu'on pouvait pas terminer ce caucus sans danser sur Bad Bunny.
Ah ouais, Mathias danse.
On se trimousse.
Après la pause, on ne parlera pas du show de la mi-temps de Bad Bunny, mais bien du match dominé par les Seahawks de Seattle. Victoire éclatante contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Premier Super Bowl pour Sam Darnold. Le quart arrière des Seahawks, on parle de ceci avec Alex Laramie après cette courte pause sur Boulevard 102.1. L'émission Nageurs, son émission du midi. On décortique l'actualité pour toi. On l'analyse. On a des excellents invités, des bonnes entrevues. C'est ce qu'on fait à l'émission Nageurs. Un, deux heures où tu sors de là et tu as été informé sur tout ce qui se passe à Québec et au Québec et également dans le domaine du sport. Continue à interagir au 418-971-1021. Merci à David qui m'a dit « Hey Jeff, tu te trompes. » Green Day et U2, c'est pas une chanson qu'ils ont écrit, c'était une reprise d'un cover du groupe britannique The Skids. Merci David, et n'hésitez pas à me reprendre par texto 418-971-1021. Je le rappelle, météo, superbe semaine d'hiver. Ça va être du moins 7 à côté pour la semaine en entier, avec du soleil pour les deux premiers jours, lundi et mardi. De la neige prévue pour mercredi, retour du soleil jeudi et vendredi. On a parlé de Bad Bunny et de son show de la mi-temps que, autour de la table, on a trouvé très bon. Les auditeurs également qui nous ont textés ont trouvé ça bon. Évidemment, bon, la musique ne plaît pas à tout le monde, mais le visuel était extraordinaire. Mais maintenant, c'est l'heure d'aller parler du match du Super Bowl avec notre chroniqueur sportif Alex Laramie, les journalistes au 99.5 Montréal. Alex, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres? Pas trop magané du Super Bowl?
Non, j'ai été sage, pas trop mangé. J'ai terminé ça avec une petite IPA sans alcool. Alors, tout s'est bien produit, tout s'est bien passé de mon côté pour ce matin.
T'as pas trop mangé? C'est un Super Bowl, Jeff. C'est ouais, fait
ben
pour
j'ai,
ça.
Ben non, écoute, j'ai mangé deux pointes de pizza, à peu près 4-5 ailes de poulet puis deux bâtonnets de fromage.
Ah ouais, OK. Moi, je me suis bourré la face.
J'ai vraiment été... Ben, c'est que je me suis fié aux deux dernières années où c'est ma troisième année que je fais de la radio le matin, que j'avais vraiment trop mangé, pris une petite bière de trop, puis caroline que je trouvais ça top lundi.
Ben, en même temps, t'avais pas dormi ben.
C'est ça. Fait que là, à un moment donné, la sagesse... Non, puis j'ai pas dormi beaucoup. Là, quand j'ai mis le cadran, il restait 4h40 à dormir.
Il te reste pas beaucoup de temps pour digérer, mettons.
C'est ça, exactement. Alex, on s'était dit, est-ce que c'est là que les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre vont frapper le mur? Ben, ils l'ont frappé pas à peu près. Domination complète des Seahawks de Seattle.
Ouais, malheureusement, j'ai envie de dire, ça n'a pas été un match très excitant hein, pour le Super Bowl. Les Seahawks ont un peu dominé de A à Z. Mais on dit les Seahawks, soyons honnêtes, c'est la défense des Seahawks qui a dominé complètement ce match-là. Je faisais le décompte ce matin. En première demi pour les Patriots, c'est 5 dégagements. Puis la séquence à la fin où on a tout simplement mis le genou à terre. Ouais. On a commencé la deuxième demi avec encore 3 dégagements, ensuite un échappé. Non, honnêtement, domination complète. Drake May, on se souvient, il y a quelques années, Sam Darnold avait dit après un match qu'il voyait des fantômes sur le terrain. Bon, on disait que c'était le cas pour Drake May dans ce match-là, qui était incapable de se débarrasser du ballon. Il faut dire que sa ligne à l'attaque ne l'a pas aidé. La ligne défensive des Seahawks a fait ce qu'il voulait durant ce match-là. Ils étaient constamment en train de mettre de la pression sur Drake May, qui était incapable de repérer ses receveurs. Non, honnêtement, il faut lever notre chapeau à la défense des Seahawks, qui, comme on pourrait dire, qui, comme à son habitude, on connaît la Legion of Boom qui a donné quand même un Super Bowl, ben c'est élevé dans le grand match.
Ah, vraiment? Donc, toute une performance de la part des Seahawks de Seattle côté défensif. Au troisième quart, à un certain moment donné, à la télévision, on nous a montré une statistique. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avaient 6 premiers essais de complétés et 7 bottés de dégagement. Donc, c'est dire à quel point Mike McDougall, l'entraîneur en chef et coordonnateur de la défensive aussi, a fait un travail exceptionnel. Alex, je vais te parler de Sam Darnold, parce que la QV des carrières 2018 est impressionnante. Baker Mayfield a été repêché au premier rang, Sam Darnold au troisième, suit Josh Allen au septième rang et Lamar Jackson au 32e rang. Et Sam Darnold, à sa cinquième équipe, devient le premier de cette QV-là à remporter le Super Bowl et le premier carrière de l'histoire à remporter un Super Bowl après avoir joué pour cinq équipes et plus. C'est un véritable retour à la lumière pour lui, là.
Ouais, vraiment. C'est une très belle histoire, évidemment, que Sam Darnold qui est capable d'aller chercher ce Super Bowl-là. Faut dire que, comme on en parlait, là, il s'est fait aider par sa défense. Moi, je trouve que c'est une performance vraiment à la Darnold. Il a complété 50% de ses passes, 202 verges, une seule passe de toucher, mais aucun revirement. Puis dans des matchs comme ça, c'est ce que tu veux voir de ton corps arrière. C'est ce que Drake May a un peu coulé son équipe. Il y avait une tentative de remonter au quatrième quart, puis l'interception est venue complètement scier les jambes des Patriots. Darnold, lui, a évité de faire ces grosses erreurs-là. Il n'a pas été exceptionnel, mais a fait le travail, puis il mérite amplement d'être souligné comme un corps arrière d'une franchise gagnante au final.
Bien, j'ai envie de dire qu'il a fait le match qu'on s'attendait de lui. C'était ça. Pas d'erreur, 200 verges de passe. On fait des bons jeux au bon moment sans être éblouissant. C'est pas un match exceptionnel, mais quand tu sais que tu as la meilleure défensive de la ligue, ou du moins une des meilleures, tu sais qu'en tant que QB, ton travail au final, c'est juste de faire des points. Un minimum. Le reste, tu t'attends que ta défense s'en occupe. Puis c'est ça qui s'est passé du côté des Seahawks, selon moi.
Ben oui, puis on a vu durant la saison, les Seahawks, c'était pas une équipe qui marquait beaucoup de touchés. On y allait beaucoup avec des placements. C'est une histoire qui s'est répétée dans le Super Bowl. Je pense que Jason Myers, le kicker justement des Seahawks, a battu un record pour le plus grand nombre de trois points dans l'histoire d'un match du Super Bowl. Donc, c'était vraiment la recette Seahawks qui a été appliquée au Super Bowl. Une excellente défense. En attaque, on limite les erreurs, on garde ça simple. On fait beaucoup de jeux par la course. Hein. Walker, qui a d'ailleurs été le MVP, a touché le ballon 27 fois. C'est sûr qu'il faut dire que Charbonnet était blessé. Probablement qu'on aurait on aurait partagé le travail. Mais là, décidément, c'est le match le plus important. Smith and Jigba aussi est tombé au combat à un moment donné, à une certaine partie du match. Donc, on s'est dit, c'est qui notre meilleur joueur à l'attaque? C'est Walker. On lui donne le ballon. Puis, ça a été la bonne stratégie. Des fois, il ne faut pas penser trop loin, essayer avec des jeux compliqués. On a vu il y a quelques années, Philly Special, c'est cute, ça a fonctionné. Mais des fois, il faut y aller à la base. On court le ballon, de la bonne défense, puis ça remporte les championnats.
Exactement. Un vrai match de football bien géré de la première seconde à la dernière du côté des Seahawks de Seattle. Chapeau à Sam Darnold, chapeau à toute l'équipe. Et maintenant, on va surveiller où Kenneth Walker va se retrouver, car il va être joueur autonome. Alors, est-ce que les Seahawks vont déplier de l'argent pour lui? Ça sera à suivre. Jeux olympiques, mon Alex, tu vas être avec nous à chaque jour pour en parler, justement. Et là, quelle belle médaille de bronze ce week-end de Valérie Maltais, 35 ans, qui va chercher sa première médaille olympique. C'était exceptionnel comme moment.
Ah, c'est un super beau moment. Puis tu l'as dit, 5e Jeux olympiques, sa première médaille individuelle. On peut juste être content pour elle. En plus, c'est quand même la première médaille du Canada, donc ça nous inscrit au tableau. Là, on a rajouté une médaille de bronze ce matin avec l'Ontarienne Megan Oldman dans l'épreuve du ski acrobatique slopestyle. Mais évidemment que Valérie Maltais, elle vient du Québec, donc on a un sentiment d'appartenance un petit peu plus proche. Puis c'était super, super beau de voir les images. Puis d'être capable de compétitionner quand même à son âge. Là, moi, je regardais hier dans le surf des neiges, puis des compétitrices qui ont 16 ans, 17 ans, tu sais, c'est des jeunes, tu sais, dans la fleur de l'âge, puis d'être capable de compétitionner dans les trentaines d'années avec des athlètes plus jeunes, je pense que c'est tout un honneur pour elle, puis évidemment que tout le Québec et le Canada est très fier de sa performance, puis c'est pas terminé pour elle, elle pourra peut-être ajouter à sa récolte également.
Très dommage pour Béatrice Lamarche, on suivait ça en direct dans la pause, qui a terminé 5e au 1000 mètres en patinage de vitesse longue piste, donc très belle performance pour elle. Est-ce que d'autres choses à surveiller pour cette fin de journée et demain en matinée, là, heure de Québec?
Ben, c'est sûr que c'était pas mal notre espoir de médaille pour aujourd'hui, là, du côté de Béatrice Lamarche qui a pris, comme tu l'as dit, la 5e place. Ensuite, cet après-midi, c'est sûr qu'on a les Canadiennes au hockey qui vont affronter, qui vont jouer cet après-midi contre la Tchéquie. Donc, évidemment qu'on va regarder ça, mais on est encore au tournoi préliminaire. On s'attend quand même à une domination aussi des Canadiennes de ce côté-là. On va surveiller le saut à ski tremplin normal chez les hommes. Il y a quand même un Torontois, Mackenzie Boyd-Close, qui va participer à l'épreuve, mais j'ai regardé les essais, il a terminé, la dernière fois que j'ai regardé, il était 18e aux essais, donc on ne retiendra pas notre souffle pour un espoir de médaille de ce côté-là. C'est sûr que demain, D'autres compétitions, encore une fois. Patinage de vitesse, courte piste, relais par équipe. Donc, ça, je pense que c'est plus en début d'après-midi. Mais évidemment que le Canada se débrouille toujours bien dans le patinage de vitesse. Donc, ça va peut-être être plus un espoir de médaille. Mais demain matin, on est plus dans des épreuves de qualification, dans des essais. Donc, je pense que ça va être plutôt tranquille pour nos récoltes de médailles demain matin.
Super. De toute façon, Alex, on va se reparler demain aux alentours de 13h40, justement, pour se faire un portrait de tout ça. Avant de te laisser partir, je veux te demander, as-tu vu les trios d'équipe Canada et qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trippe bien raide qu'on ait mis Celebrini avec McDavid et Tom Wilson. Je me dis que Wilson va ouvrir le jeu à ces deux joueurs talentueux. J'adore que Sidney Crosby soit jumelé à Mark Stone et Mitch Marner. Et Nick Suzuki, qui a toute qu'une promotion en étant jumelé à Nathan MacKinnon, notamment. Donc, bref, c'est des trios très intéressants pour le premier match.
Ouais, ça fait beaucoup jaser, les trios, évidemment. Faut dire que c'est pas coulé dans le béton. Là. On risque d'avoir d'autres combinaisons au fur et à mesure que le tournoi va avancer. Mais tu l'as dit, je pense que le premier trio, McLean, Celebrini, McDavid, Tom Wilson, moi, si j'étais dans une autre équipe, ça me ferait peur, honnêtement. Le deuxième trio, on a des questions un peu sur la vitesse. Suzuki oui. Puis Marchand, c'est pas les plus rapides avec MacKinnon. Pas convaincu que ce trio-là va durer, mais on sent que Suzuki a un peu pris la place de Braden Point, un peu dans le même genre de joueur, des centres qui peuvent faire un peu de tout. Fait qu'on sent qu'il a pris un peu ce poste-là. Puis le troisième trio, ben écoute, je pense que Crosby, on met n'importe qui à côté de lui, puis ils vont bien paraître. Fait que je pense que Stone puis Marner, c'est deux excellents joueurs. Peu importe les combinaisons qu'on va faire, selon moi, on va avoir un bon résultat. Là. Je veux dire, c'est quand même l'équipe Canada, là, on s'attend à la médaille d'or.
Puis on peut vraiment s'amuser du côté des combinaisons parce qu'on a tellement un éventail de joueurs différents du côté d'équipe Canada. Puis je pense que ça peut jouer en notre avantage. On a d'excellents attaquants défensifs. Sam Reinhardt, Brendan Eichel, Nick Suzuki, Mark Stone, Mitch Marner, c'est tous des gars qui en défense sont excellents. Du monde qui sont capables de mettre un peu plus de grip, un peu plus de physique. En Tom Wilson, Brad Marchand qui est capable d'être dérangé. Fait que d'avoir des joueurs qui sont autant différents les uns que les autres en tant que coach, c'est sûr que quand tu fais tes lignes, tu peux avoir du fun en maudit. Là.
Alex. Ouais, puis on sait qu'avec les trios, en terminant, ça va vraiment être équilibré. Selon moi, on va avoir du temps de jeu assez réparti entre les trios.
Alex Laramée, merci beaucoup pour cette excellente chronique sportive et on se parle à chaque jour. Demain, ça sera aux alentours de 13h40 pour l'effet saillant des Jeux olympiques. On suit ça avec attention, ces Jeux olympiques où le Canada est impliqué dans plusieurs disciplines.
C'est toujours avec plaisir, les gars.
Yes, salut Alex. Alex Laramée, journaliste au 99.5 Montréal. Excellent connaisseur de sport. On va s'en servir justement pour couvrir les Jeux olympiques.
À Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14h.
On vous présente ce soir le deuxième de nos 5 podcasts des podcasts hors série. Ne manquez pas ce soir, 19h, c'est la diffusion de l'épisode Table ronde sur l'amour. Il y a 4 ans, Denis Audrey et Véro ont eu une longue conversation sur l'amour dans le cadre du podcast Gravel dans le retour. Alors que les situations amoureuses des trois ont radicalement changé, ils reviennent sur le sujet avec la transparence qu'on leur connaît. Le podcast hors série s'est présenté par Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Je suis allé en fin de semaine pour me garnir de quelques consommations pour le Super Bowl. Oh my God, c'est la meilleure place à aller. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la bière de soif parfaite, 3 succursales, Beauport, Saint-Émile, Sainte-Catherine, de Jacques-Cartier. Ben oui, Sainte-Catherine a maintenant son Chaloux. Santé, guys. Mathias, avant de passer à notre entrevue avec Maxime Lapointe, avocat spécialiste en immigration, excellent texte sur Radio-Canada ce week-end où on parlait des mensonges du ministre Jean-François Roberge. Et je veux qu'on en parle parce qu'on a tendance vraiment dans le dossier de l'immigration, dans le dossier du programme Expérience Québec, à laisser planer des faussetés qui font mal paraître les personnes immigrantes qui sont ici à Québec, qui travaillent et qui nous font bénéficier justement d'entreprises. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité?
Deux individus se sont introduits hier, ce matin vers 13h15 dans une demeure du côté de Lévis. Ces deux suspects cagoulés qui ont battu à coups de marteau des occupants de la demeure. Là, on parle de deux victimes, là, deux frères qui sont en fin trentaine, début quarantaine. On dit qu'un des deux a eu des blessures plus graves, mais que pour aucun des deux, la vie est en danger présentement. Cette même adresse avait été victime d'un incendie criminel il y a de ça 3 mois du côté du service de police de la ville de Lévis. On est toujours à la recherche des agresseurs et on enquête présentement sur les lieux. Car mon enfant a annoncé aujourd'hui qu'il va être accompagné de son procureur mercredi qui s'en vient pour faire une conférence de presse. Car mon enfant, qui est le vice-président de la transformation numérique, qui était du côté de la SAAC durant le scandale SAAC-Click, son nom avait énormément ressorti durant la commission Galant. Et donc, il veut faire une conférence de presse. L'objectif, c'est de remettre les événements dans leur ordre pour que ce soit simplement des bribes isolées, remettre des éléments de preuve qui vont montrer pourquoi Carmel Enfant a pris telle et telle décision. La raison pourquoi il fait ça cette semaine, eh bien, c'est que le rapport de la commission Galant va être disponible lundi prochain, le 16 février. Des vols à destination de Cuba sont présentement annulés. La raison, c'est que présentement, les livraisons d'avitaillement en kérosène, qui est en gros du gaz d'avion, est présentement suspendu sur l'île des Caraïbes. Donc, Air Canada a décidé d'annuler ses vols en direction de Cuba. Justement, on dit que les vols pour les personnes qui sont présentement sur l'île vont être possibles pour les rapatrier vers le Canada. Mais présentement, selon un avis opérationnel, il va avoir un manque imminent de carburant justement pour avions à Cuba à compter de mardi. Donc, on va suivre cette situation-là qui va évoluer au cours des prochains jours.
Oui, puis si vous aviez acheté un voyage pour Cuba dans les prochaines semaines, communiquez avec votre agent ou agente de voyage parce que le Canada, le gouvernement du Canada ne vous conseille pas de vous rendre à Cuba à l'heure actuelle. Il y a des manques à peu près dans tout. On parle de nourriture, on parle de kérosène. Donc, peut-être mieux de choisir une nouvelle destination pour vous. Après la pause, on parle avec Maxime Lapointe, avocat spécialiste en immigration. On revient sur ce programme Expérience Québec qui a été aboli par le gouvernement du Québec, donc le gouvernement de la CAQ, le ministre Jean-François Roberge. Excellent texte sur Radio-Canada ce week-end où on rapportait 4 mensonges de Jean-François Roberge rapporté lors de ses conférences de presse et ses entrevues. On va aller chercher l'opinion de Maxime Lapointe là-dessus. Et Maxime également se positionne fortement à l'encontre du ministre Jean-François Roberge. C'est ce qu'on vous parle après cette courte pause à Boulevard 102.1, l'émission On en jase.
À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, On en jase.
Émission en jase sur Boulevard 101, il est précisément 13h06. C'est ton émission, ta meilleure émission pour savoir tout ce qui se passe dans l'actualité et avoir des analyses complètes de dossiers complexes. On va d'ailleurs faire ça avec le programme Expérience Québec qui est aboli par le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge. On va parler avec Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. On va tenter de démêler le vrai du faux parce qu'il y a énormément de faux qui sortent de la bouche du ministre Jean-François Roberge à l'heure actuelle. Pour nous joindre, 418-971-1021 par texto, allez-y, interagissez. On aime toujours recevoir vos commentaires et vos suggestions. Isabelle qui nous écrit, Jeff, il faudrait avoir un spécialiste qui va nous parler encore mieux de ce qui se passe à Cuba, le gaz, toute l'équipe. Bien, ça tombe bien. On va avoir Victor Enriquez qui va remplacer Antonine Iacarini mercredi. Victor s'y connaît énormément. Donc, on va lui donner ça comme mission, Isabelle. T'inquiète, mercredi, on fait ça aux alentours de 12h05. Vous pouvez également nous écouter via blvd.fm, c'est la web radio, c'est les meilleurs moments également de l'émission qui s'y retrouvent après l'émission à chaque jour. twitch.tv/blvd/fm pour venir nous voir sur Twitch, vous pouvez interagir dans le chat également. L'application Boulevard sur App Store et Google Play Store. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, les podcasts hors série justement s'y retrouvent à chaque semaine. Je le disais d'entrée de jeu, Jean-François Roberge, notre ministre de l'Immigration, malheureusement dit des faussetés dans le dossier de l'abolition du programme Expérience Québec, remplacé par le programme spécialisé qualifié en immigration. Et pour en parler avec nous, on a Maxime Lapointe, avocat qui concentre sa pratique en droit de l'immigration au Québec et au Canada. Maxime, comment vas-tu?
Ça va bien, merci de penser à moi.
Ah, ça fait plaisir, merci à toi d'accepter l'invitation. Maxime, j'ai lu un texte, j'ai pensé à toi justement en fin de semaine parce que j'ai lu un texte samedi sur Radio-Canada parlant de Jean-François Roberge et de ses mensonges en ce qui a trait à l'abolition du programme Expérience Québec. Puis je voulais justement t'en parler parce que je trouve que tu es la meilleure personne pour nous dire, c'est vraiment des mensonges ou c'est vrai? Je commence avec le premier. Le programme Expérience Québec donnait une citoyenneté automatique, gratuite, sans condition à des centaines de milliers de personnes. C'est dans une entrevue diffusée à Midi Info sur Radio-Canada le 23 janvier. Vrai ou faux?
Ben, faux. Puis juste dans cette phrase-là, il y a déjà 3-4 mensonges.
Vas-y donc.
Un, c'est pas rapide. Ça prend au moins 6 mois par le Québec pour faire traiter le dossier. On se demande qu'est-ce que les fonctionnaires font pendant 6 mois. Là. Mais deuxièmement, c'est pas pour tout le monde. Les programmes de l'expérience québécoise de volet pour les travailleurs étrangers temporaires, c'est 2 ans de travail à temps plein dans un emploi qui est spécialisé. Donc, c'est pas tous les postes. Exemple, serveur au restaurant se qualifie pas. Cuisinier, oui. Donc, tous les postes sont répertoriés dans une classification nationale. Et il faut un niveau de français autant pour le requérant principal, on demande niveau intermédiaire avancé en français oral, puis niveau débutant pour l'épouse. Donc déjà là, on vient qu'on discrimine, là, c'est pas pour tout le monde. Et la citoyenneté québécoise, s'il vous plaît, là, ça n'existe pas. Là, okay? On est au Canada, c'est la citoyenneté canadienne, puis avant ça, on donne plutôt la résidence permanente. Donc le ministre maîtrise mal les concepts de base.
Donc, c'est ça, on n'est pas encore souverain. Dans sa conférence de presse du 30 janvier 2026, il a mentionné que le programme Expérience Québec aurait fait passer des candidatures de personnes sans emploi ou de personnes peu qualifiées devant les travailleurs de la santé. Moi, j'y crois pas parce que les travailleurs de la santé ont toujours été essentiels et mis à l'avant-plan dans l'immigration.
Non, mais là-dedans encore, 2 mensonges. Peux-tu répéter la phrase?
C'est le programme Expérience Québec aurait fait passer des candidatures de personnes sans emploi.
Alors déjà là, c'est 2 ans de travail à temps plein. Donc, il faut avoir un emploi au niveau de la demande. Peux-tu continuer?
Ou de personnes peu qualifiées devant les travailleurs
ça,
de la santé.
Ça, on vient de le dire aussi. Alors, c'est un emploi qui est qualifié au sens de la classification nationale. Donc, 2 mensonges. Bravo, M. le ministre.
On y va avec la 3e. Dans le programme Expérience Québec, il n'y avait aucune sélection possible en fonction des régions. Nous n'aurions d'aucune manière pu régionaliser ou sélectionner les gens en fonction des régions, toujours dit dans sa conférence de presse du 30 janvier.
Ben, l'immigration s'est déjà régionalisée dans les dernières années avec justement la hausse de nombre de travailleurs étrangers temporaires. T'sais, les entreprises ont payé pour aller en mission de recrutement à l'international avec justement le gouvernement qui leur a dit mm-hmm. « Oui, on va vous aider, nous, à recruter. » Puis ensuite, il y a le programme Expérience québécoise pour la résidence permanente. Donc, l'immigration s'est régionalisée dans les usines, dans les restaurants, dans les hôtels, les emplois à leur face même ne sont pas tous à Montréal. Et ça, le ministre le comprend mal.
Et le dernier mensonge selon Radio-Canada jusqu'à présent, bien, Radio-Canada était quand même 3-3, il faut le souligner. Ottawa doit renouveler les permis des travailleurs qui sont sur le territoire québécois, des gens qui rendent des services particulièrement à Montréal et Laval. Le gouvernement fédéral doit cesser d'arracher des travailleurs dans nos institutions, dans nos hôpitaux, dans nos CLSC, dans nos manufactures, conférence de presse, encore une fois, du 30 janvier.
Ça, c'est beaucoup là, pour le ministre. L'aspect constitutionnel, l'immigration, les pouvoirs du Québec, du Canada, c'est mal compris. Quand le ministre dit le programme Mobilité internationale, qui est un programme pour donner un permis de travail, qui est géré exclusivement par le fédéral, le Québec dit « Ah, nous, on n'a pas le contrôle, on ne sait pas qui vient par ce programme-là, mais le gouvernement lui-même, dans sa propre pénurie de main-d'œuvre, recrute des infirmières au CIUS de la Rive-Sud, à Chaudière-Appalaches, par le programme qui est administré par le fédéral. Donc, le ministre ne comprend même pas que le gouvernement québécois, dans sa propre pénurie de main-d'œuvre, n'utilise même pas le programme d'immigration dans lequel il a compétence. Moi, ça fait 16 ans que je fais de l'immigration. J'ai jamais rien vu d'aussi aberrant. Le gouvernement qui n'utilise pas le programme, que ce soit de l'immigration ou de Revenu Québec, ou ce que ce soit, donc, ils utilisent les programmes fédéraux parce qu'ils sont plus faciles que les programmes provinciaux. J'avoue que ça, je trouve ça quand même assez particulier. Mais peux-tu me relire le premier bout?
Oui, le premier bout, c'était « Ottawa doit renouveler les permis des travailleurs ».
Alors, ce bout-là, avant de passer au permis de travail, il y a l'étape de l'évaluation de l'impact sur le marché du travail. Donc, Service Canada rend une décision conjointe avec Immigration Québec. Donc, c'est comme dans Astérix, les 12 travaux, là, pour avoir le laissez-passer A36, ça prend le papier bleu. Bon. Alors, c'est un peu ça. Alors, l'étape d'avant, le permis de travail, c'est le Québec. Et c'est le Québec qui n'a pas bataillé pour préserver des acquis qu'il y avait en vertu de l'accord Canada-Québec, jusqu'en décembre 2024, on avait des professions éligibles à un traitement simplifié. Donc, on pouvait avoir un nombre illimité de travailleurs pour des permis de travail de 3 ans. Et ça, M. Roberge n'a pas bataillé pour ça, puis ça tombe. C'est ça qui est bizarre avec la course à la chefferie de la CAQ. Parce que Christine Fréchette, c'était l'ancienne ministre de l'Immigration avant lui. Et elle, quand elle est partie, M. Roberge est arrivé en septembre 2024. Et c'est à ce moment-là que le fédéral a changé les règles dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui a remis le programme essentiellement comme c'était avant la COVID pour tout le Canada. Mais le Québec avait des avantages et c'est à ce moment-là, en septembre 2024, qu'il aurait fallu batailler pour dire non, non, vous, indépendamment de votre mise à jour du programme, le fédéral, nous, le Québec, on a tel, tel acquis. Et ça n'a pas été fait. M. Robert, j'ai attendu, selon lui, au mois de juin, il a renvoyé une lettre au fédéral pour dire « ouais, peut-être ça prendra une clause grand-père ». Mais donc, il n'a pas compris les enjeux névralgiques de pénurie de main-d'œuvre, mais surtout d'accord entre le Québec et le Canada qui permettait des belles avancées au Québec. Quand il est rentré en poste, ça semble lui avoir pris plusieurs mois avant de comprendre.
Tu dis « il n'a pas compris », ça m'amène à cette question-là. Est-ce que M. Roberge ment sciemment pour bien paraître avec son nouveau programme ou il ment parce qu'il n'est pas du tout en contrôle de la situation?
Ben, c'est un peu des deux. Hein, quand on est dans l'idéologie là, actuellement, là, donc on n'a pas besoin de s'appuyer sur aucune statistique, mais t'sais, c'est plus difficile de gérer le ministère de l'Immigration que de gérer la laïcité. Là.
Mm-hmm.
Parce que la laïcité, on le voit, le gouvernement a fait des lois, sont contestées devant les tribunaux, on est rendu en Cour suprême. On ne sait même pas encore si la loi qu'on a faite, la loi 21, si elle est constitutionnelle en vertu de la liberté de religion qui est protégée au Canada. Là. Donc c'est ça, c'est pas grave, on est dans l'idéologie. Mais dans l'immigration, c'est quand même, un, important de savoir comment les programmes s'appellent, deux, de savoir c'est quoi les pouvoirs du Québec et ceux du Canada. Puis si le Québec en veut plus, il faut être capable de savoir comment les demander. Quand François Legault a dit pendant 2 ans qu'il voulait les pleins pouvoirs en immigration, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire gérer les ambassades partout dans le monde, donner des visas de visiteurs, donner la citoyenneté? Constitutionnellement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, c'est trop compliqué pour M. Roberge, mais qui est aussi dans l'idéologie, on va être bien entre nous autres dans notre Québec laïque, blanc, francophone.
Mais si personne le soutient comme ça, si tout le monde est comme c'est un mauvais, c'est un mauvais choix, ce changement de programme-là, qui a besoin de mentir pour le justifier. C'est quoi l'objectif de ça? Pourquoi on choisit de passer du PEC au PSTQ, dans ce cas-là, du côté de Jean-François Roberge?
Pour ce bout-là, moi, je trouve que c'est deux programmes qui pourraient opérer très bien en parallèle. C'est-à-dire le programme Expérience québécoise, on en a parlé, 2 ans de travail à temps plein dans un emploi qui est considéré comme spécialisé. On peut penser, exemple, au boucher de votre épicerie, qui est un travailleur étranger, qui, lui, saurait qu'après 2 ans, il a accès et un niveau de français. Donc, s'il n'y a pas le français, ben, il faut qu'il prolonge son permis. Mais s'il y a le 2 ans et le niveau de français, il sait qu'il peut postuler. Et le programme de sélection de travailleurs qualifiés, qui, lui, a un volet, exemple, pour les talents d'exception. Exemple, j'allais dire un Sidney Crosby, mais c'est un mauvais exemple, c'est un Canadien. Mais un Sakou Koivu, qu'on voudrait donner la résidence permanente, même s'il ne parle pas français, où il y a un volet pour les emplois réglementés, on peut penser à des infirmières. Donc, si on veut donner la résidence permanente, exemple, à une infirmière après 2 mois parce qu'on aime vraiment son profil, bien, le PSTQ fonctionne pour ça. Et les gens qui ont 2 ans de travail à temps plein, les cuisiniers dans tous les restaurants de la ville là, qui ont peur de quitter, bien, ils savaient qu'après 2 ans, ils avaient accès à ce programme-là. Donc, c'est 2 programmes qui peuvent fonctionner en parallèle. Et je pense que là, M. Roberge est là pour essayer de boucler la boucle. La CAQ s'est fait élire en 2018 en promettant de baisser les niveaux d'immigration de 20 %. On n'a jamais vraiment baissé l'immigration, sauf la première année. Et là, vu qu'on est en élection cette année, c'est uniquement motivé par des considérations politiques où on dit bien, le PQ veut moins d'immigrants, nous aussi on en veut à peu près moins, puis on va essayer de se battre sur quel parti veut le moins d'immigrants. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que la société civile, les entreprises, les syndicats, c'est unanime. Le PEC, c'était un programme qui fonctionnait bien.
Donc, la clause grand-père que Charles Milliard mentionne qu'il va faire si jamais il était élu, c'est ce que ça prendrait à l'heure actuelle.
Bien, premièrement, la clause grand-père, il y en a eu une en 2020. Si on se rappelle, okay, la CAQ se fait élire en octobre 2018. M. Jolin Barrette devient ministre. Il fait une grosse réforme dans le PEC. Le gouvernement s'est fait poursuivre à plusieurs reprises. Ils sont retournés à la table à dessin. Simon Jolin Barrette est parti dans la disgrâce totale. Nadine Giraud a pris le ministère de l'Immigration, une femme issue de l'immigration qui avait un cancer. J'avoue que c'est quand même quelqu'un qu'on ne pouvait pas vraiment avoir des commentaires négatifs contre elle. Première chose qu'elle a fait, c'est une clause grand-père dans le programme de l'expérience québécoise pour donner des droits acquis à ceux qui étaient sur le territoire avant le gros changement de juillet 2020. Donc, le gouvernement de la CAQ peut utiliser sa propre prérogative de juillet 2020 pour refaire la même chose. Alors, tu sais, il n'y a pas de volonté politique. Ils l'ont déjà fait. C'est même pas défoncer une barrière quelconque. Ils n'ont aucune demande à faire au fédéral. Et c'est là où le fédéral a raison de dire le Québec a suffisamment de pouvoir pour rendre tous ces travailleurs étrangers-là permanents s'il veut. Le Québec peut sélectionner 22 % de l'immigration canadienne qui est évaluée à 385 000. Il peut même dépasser de 5 % pour des raisons démographiques. Donc, le Québec, sans demander rien au Canada, peut sélectionner 80 000 immigrants dans l'immigration économique. Donc, on le fait pas parce qu'on s'est dit en 2018, on a été élu en disant en prendre moins pour en prendre soin, mais on n'en a jamais pris moins, puis on n'en a jamais pris soin, finalement.
Donc, on s'est complètement trompé sur les deux volets. On est dans une course à la chefferie de la CAQ. Ça sera soit Christine Fréchette ou Bernard Drainville qui va remporter la course. Lorsque un des deux sera élu, va devenir automatiquement premier ministre. Jean-François Roberge doit-il rester ministre de l'Immigration en terminant?
Je pense que malheureusement, il va devoir être sacrifié dans tout ça, là, parce que c'est à contre-courant totalement avec Mme Fréchette qui, elle, quand elle était ministre de l'Immigration en 2023, avait rouvert le programme Expérience québécoise de volet pour les étudiants. Les étudiants des 36 derniers mois qui avaient gradué dans un DEP ou un collège ou une université avaient accès au programme. Et dans les consultations publiques, moi, j'avais dit à la ministre, vous allez être surprise, nombre de personnes qui vont appliquer dans le programme. L'année d'après, elle est partie. M. Robert, je vais fermer le programme. Donc Mme Fréchette était plus pro-immigration que M. Roberge, qui, lui, je ne veux pas dire anti-immigration, mais presque. Parce que le problème, je me permets une parenthèse.
Ben oui, vas-y.
Le problème dans tout ça, c'est qu'on voit que le gouvernement, dans sa propre pénurie de main-d'œuvre, lui, n'hésite pas à faire affaire avec des immigrants étrangers. Mais on dit que les entreprises privées, eux, c'est comme, ah non, vous allez vous sevrer, mais nous, non, dans les missions de l'État, santé, éducation, on a le droit encore.
Ben, t'as raison, on recrute encore des éducatrices spécialisées pour nos CPE à l'étranger.
C'est ça, mais ça, c'est un problème au niveau. On peut pas être le gouvernement de l'économie si on donne pas de l'oxygène aux entreprises privées qui, eux, amènent justement des taxes, des impôts et de la vitalité dans les régions. Mm-hmm. On dirait que le gouvernement priorise sa propre pénurie de main d'œuvre. Et là, bref, Monsieur Drainville et Mme Fréchette, les deux ont l'air de jongler avec l'enjeu de la clause grand-père. Alors, peut-être que l'agneau sacrifié, ça va être M. Robert. Je dis qu'il va y avoir un des deux qui va être élu, puisque la pression est trop forte. Vous en parlez dans les médias pratiquement tous les jours. Tous les partis d'opposition le réclament.
On parle, les entreprises, les maires des municipalités, autant en région qu'ici à Québec, donc il y a une pression énorme
sur la
CAQ.
Robert, isolé.
Oui, vraiment. Maxime Lapointe, avocat spécialisé en pratique et en droit de l'immigration au Québec et au Canada. Merci beaucoup, Maxime, pour ta présence en studio avec nous, de nous avoir éclairé, parce que si c'est un problème complexe pour le ministre, c'est complexe pour nous autres aussi dans les médias. Donc, tu le vulgarises toujours bien, tu l'expliques très, très, très bien. Après, dans un instant, à Boulevard 101, Mathias, le troisième lien est en perte de vitesse selon un sondage CHUM. Le tramway, l'aiguille ne bouge pas. Bon, on va parler justement avec la personne responsable de ce sondage. Éric Lacroix, vice-président et chef de la stratégie d'affaires chez Somme, est avec nous dans quelques minutes à Boulevard 101 à l'émission On en jase.
Jusqu'à 14h.
Boulevard 102, émission en jase. 13h26 exactement. Météo, c'est fort simple. Moins 7, guys.
Fait beau.
Exactement. Retenez moins 7 avec du soleil pour aujourd'hui et demain. De la neige pour mercredi. Retour du soleil jeudi, vendredi. Ça va être une superbe semaine d'hiver. Profitez de l'extérieur. Amusez-vous. Avec les enfants dehors, ils ont besoin d'air pour dépenser leur énergie.
Une journée, je suis pas un gars qui apprécie beaucoup l'hiver, OK?
Ouais.
Mais bon, c'est présentement des Jeux olympiques d'hiver. Fait que peu importe où tu vas dans la station, il y a des Jeux olympiques qui jouent. Le gros soleil sur la neige, je commence peut-être à aimer l'hiver. Bon, je vais l'aimer pendant deux semaines, là, mais après ça, on verra. Ouais. Mais non, une belle journée de même, là. Pendant les Jeux olympiques, ça se prend bien en maudit.
Fait que le maire marchand, là... Hein? Aimez l'hiver, vous autres aussi. Puis gardez nos patinoires.
J'ai commencé à aller à la patinoire en plus.
Ben oui, je le sais, avec Max.
Oui.
Ben oui.
Nos petites sorties.
Préparé pour un gros match de hockey qui va s'en venir, un de ces quatre au mois de mars. On a Éric Lacroix au bout du fil de ça. Mais avant, s'il vous plaît, Mathias, peux-tu nous répéter la nouvelle, c'est-à-dire le sondage Somme concernant le troisième lien et le tramway, un troisième lien qui est en perte de vitesse et de confiance?
Oui, en perte de confiance surtout. Là, présentement, c'est seulement 27 % des habitants de la région métropolitaine de Québec qui sont confiants de voir le troisième lien se réaliser. Je répète, 27 % là, on parle d'une personne sur quatre. On parle pas de soutien, on parle de confiance. 68 % des habitants de la région n'ont plus confiance que de voir le projet se réaliser. Ça en dit beaucoup. Et ça, malgré le fait que le projet, présentement, il est soutenu par 55 % de la région. Puis là, je tiens à dire le projet présenté comme en ce moment par la CAQ, donc le corridor central, c'est 55 % des gens de la région de Québec qui y sont favorables. On parle quand même de grosses baisses par rapport au soutien du projet, notamment dans la région de Lévis dernièrement. On est passé de 70 % d'appui à 53 % seulement pour qu'on soutienne le troisième lien. Je le répète, surtout en raison du corridor central,
ben oui.
Cette baisse soudaine. Du côté du tramway, ça ne bouge pas du tout, malgré le fait que les travaux ont été annoncés et qu'ils s'en viennent. Le tramway reste autant défavorable qu'avant. Il n'y a pas un bon score. On parle de 40 % des gens de la région qui sont favorables à un tramway à Québec contre quand même 53 % qui n'en veulent pas tout simplement de tramway. Donc, ça fait pas mal de tour des chiffres qui sont sortis ce matin.
Des chiffres pas très positifs pour les deux projets majeurs de Québec. Un qui est présentement, justement, en train de se construire et l'autre où on attend toujours. Et pour en parler avec nous, on parle avec Éric Lacroix, qui est vice-président et chef de la stratégie d'affaires chez SOM. Éric, comment vas-tu?
Ça va très bien. Vous aussi, bonjour.
Ah oui, ça va super bien. Éric, merci de participer à l'émission encore une fois aujourd'hui. Pas surprenant, Éric, de voir ces chiffres-là pour le troisième lien, parce que le corridor central, ce qu'on entendait, puis moi, ce que je lis de nos auditeurs, et d'ailleurs, vous pouvez interagir au 418-971-1021, ce qu'à peu près personne n'en veut de ce corridor-là.
Mais malgré tout ça, il y a encore 55 % du monde qui supporte le projet.
Ouais.
Le seul moment, en fait, où le troisième lien est tombé sous la barre des 50 % et il était tombé solidement, là, c'était la proposition d'avoir seulement un tunnel réservé au transport en commun.
Ouais, oui.
Là, on était à 25 % il y a trois ans de ça. Ça, c'était la catastrophe totale. Mais il reste que, quand même, malgré tout, les gens ont pas confiance en la CAQ pour le réaliser. Il y a un pessimisme dans la région, définitivement. Mais il reste que quand même, c'est 55 % des gens qui soutiennent finalement l'idée d'un troisième lien, même si c'est dans un corridor un peu, effectivement, bizarre, là, qui fait vraiment pas l'unanimité, là, et bien au contraire, en fait.
Mais j'ai l'impression que c'est tellement un projet qui tient à cœur à beaucoup de personnes, puis qu'il y a beaucoup de personnes que ça fait des années et des années et des années qu'ils l'attendent, qu'eux autres, il y en a probablement beaucoup que même si le tracé fait pas tant leur affaire, sont comme, coûte que coûte, il nous faut ce projet-là.
Oui, vous avez la bonne lecture de la situation, effectivement. C'est ce que ces chiffres-là traduisent. Puis on le mesure depuis 2017-2018, cet appui-là au troisième lien. Puis quand on parle d'un troisième lien à l'Est, là, qui bouclerait finalement la boucle en passant d'une certaine façon par l'île d'Orléans, comme M. Duhaime le soutient, à ce moment-là, les appuis remontent facilement à 65-70% des gens de la région. Donc, c'est ça. Mais par contre, les gens n'ont pas confiance qu'un troisième lien va être réalisé d'ici aux 15 prochaines années.
Ouais, d'ici aux 15 prochaines années. Hey, c'est très large, ça. Est-ce que tu penses que la CAQ, avec un nouveau chef, que ce soit Christine Fréchette ou Bernard Drainville, s'il propose enfin le fameux corridor périphérique à l'Est, pourrait regagner la confiance des électeurs ou c'est complètement mort la confiance des gens de la région de la Capitale-Nationale, je veux dire, Appalaches, envers la CAQ?
Écoutez, je ne sais pas comment les gens vont prendre ça. Est-ce que c'est juste une promesse électorale pour essayer de gagner quelques sièges dans le coin de Lévis et Chaudière-Appalaches pour après ça revirer de bord encore une fois? C'est un peu cette vaste hésitation-là qu'on a vue depuis plusieurs années, que d'après moi, il y a une perte de confiance. Là. Mais écoutez, peut-être que, mais j'en doute très fort.
Pour rappel, on parle avec Éric Lacroix, qui est vice-président et chef de la stratégie d'affaires chez SOM. On parle du sondage SOM, le soleil, concernant le troisième lien et le tramway. Éric, je veux t'amener sur le tramway, qui score encore une fois seulement 41%. Mais pourtant, la Ville de Québec a élu Bruno Marchand en majorité avec 18 conseillers politiques. Puis je veux te faire le parallèle avec les élections provinciales. Ça veut-tu dire qu'on choisit vraiment la personne qu'on pense qui va être capable de mieux gérer la ville ou la province indépendamment des projets qui sont proposés?
Bien, en fait, le maire de Québec, depuis des années, là, en fait, pour voir un maire de Québec battu aux élections, il faut retourner dans les années 40, je pense. OK, 1940. Donc, c'est les maires qui sont présentement là, ceux qui décident de se représenter depuis 80 ans, gagnent leurs élections. Fait que ça a joué en faveur de M. Marchand définitivement. Le tramway est un de ses projets. Il faut voir que maintenant, on parle de 40-41% de taux d'appui. C'était la même chose à la fin de 2025. Mais par contre, au moment où on parlait son recul en 2024, au moment où le tramway, c'était du 12 milliards ou 13 milliards, l'appui avait tombé à peu près à 30 %. Donc, à ce moment-là. Fait que s'il fallait qu'il s'avère, comme Steve Lavoie l'a laissé entendre la semaine passée, que effectivement le coût serait à 13 milliards, l'appui chuterait encore de façon marquée. Puis, s'il fallait, on l'a mesuré aussi dans des sondages précédents, s'il fallait que le fédéral, par exemple, n'embarque pas dans le projet, c'est sûr que l'appui tomberait. Puis, définitivement. À 7,6 milliards, on est à 40 % et ça demeure depuis deux séries de sondages, finalement.
Le coût pourrait faire en sorte que les chiffres d'appui baissent. Est-ce qu'une fois que les travaux vont... Parce que là, ils ont été annoncés. Est-ce qu'une fois que les travaux vont être commencés, on pourrait voir le chiffre des appuis baisser également?
Potentiellement. Mais en fait, ceux qui craignent le plus les effets sur leur déplacement, c'est évidemment les gens qui demeurent dans le coin du tracé. Les autres qui sont plus en périphérie, donc on peut passer Charlebourg, la Haute-Saint-Charles, etc., se disent qu'ils ont l'impression que les travaux ne les affecteront pas tant dans leur déplacement. Donc, potentiellement, ils travaillent ailleurs, qui côté restauration, côté fréquentation de commerce, ben ils vont certainement éviter d'y aller pour pas se mettre dans le trouble là, avec une circulation qui serait très perturbée.
Donc, ça peut être quand même assez questionnaire pour le centre-ville de Québec durant les travaux, à l'effet qu'il va avoir moins de visiteurs parce qu'il y a des gens qui se disent « Hey, regarde, moi, les travaux m'affecteront pas parce que je n'irai pas me mettre le nez là ».
Exactement. Ça va favoriser définitivement d'autres axes où les travaux n'ont pas lieu. On peut penser à le Bourgneuf, etc., tu sais, le coin des Galeries à Capitale, où il y a plein de restaurants, des choses comme ça. C'est certain qu'eux risquent d'être avantagés si les gens déplacent effectivement leur centre d'intérêt pour aller manger au restaurant, pour aller fréquenter des commerces, etc.
Il y a une dernière question que j'aimerais te poser, puis c'est un chiffre qu'on n'analyse pas tant souvent. Mais pour les trois questions qui ont été posées en lien avec le troisième lien et en lien avec le tramway, seulement 5 % des répondants n'ont pas choisi de répondre. Puis je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que 5 % c'est très, très bas. Là. D'habitude, on voit parfois des refus de réponse à 20-25 % pour différents projets ou tout simplement des élections. Ça prouve vraiment qu'il y a eu énormément de discussions autour de ce projet-là, puis qu'il y a une grosse polarisation, je me trompe?
Non, effectivement, vous avez une bonne lecture de ces résultats-là. Facilement, normalement, là, à savoir si les gens sont pour ou contre un projet, on voit très souvent là, du 10-12 % de personnes qui préfèrent ne pas s'exprimer. Là, c'est coupé en deux. Il y a seulement 5 % des gens qui ne croient pas être en mesure de se prononcer. Fait que oui, c'est très, très parlant, puis ça reflète dans les deux cas l'intérêt ou en tout cas l'intérêt ou le non-intérêt envers les deux projets.
Éric Lacroix, vice-président au niveau de Somme et également chef de la stratégie d'affaires. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et au plaisir de se reparler. Faites-vous un sondage avec le soleil en plusieurs volets comme vous avez fait la semaine dernière?
Il y a d'autres volets qui s'en viennent. Je ne sais pas exactement lesquels, mais il y en a d'autres, effectivement.
Bien, parfait.
Les données n'ont pas été publiées.
On se tient au courant là-dessus, Éric, avec un immense plaisir.
Merci, au plaisir de collaborer à nouveau.
Salut, Éric. Éric Lacroix, excellent vice-président et chef de la stratégie d'affaires chez Somme. Toujours pertinent de l'entendre jaser des résultats. Excellente question passant à Mathias à la fin, c'est vrai. Hein?
Ah oui,
c'est là qu'on voit
vraiment
que les projets sont polarisants. Là.
Oui, puis on voit que les projets sont... Je veux dire, on en parle tellement depuis, ça fait 10 ans, mm-hmm. même 15 ans. On parle presque de ça, ça revient toujours dans l'actualité, puis c'est quand même impressionnant à quel point ça revient toujours dans l'actualité. Fait qu'à force d'autant en parler, ben tout le monde finit par avoir une opinion sur le sujet.
Ah, vraiment.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
J'ai accroché un putain, ça m'arrive des fois.
De
malheureusement.
Temps.
Exactement. Hey, est-ce que tu as écouté les publicités en ce qui a trait au Super Bowl?
J'en ai écouté une bonne partie. Oui, hier, j'écoutais la game en français. Là. J'écoutais ouais. à RDS. Fait que malheureusement, j'ai pas vu des pubs américaines, mais comme chaque année, là, sont partout sur Internet. Là. Fait que oui, j'en ai vu passer une coupe, mettons. Là.
Exactement. 418-971-101. Je veux connaître, pour ceux qui ont vu les publicités, que ce soit en écoutant le match ou que vous êtes, comme moi et Mathias, vous êtes allé les visionner par la suite. Je veux savoir votre publicité préférée. Et là, Mathias, moi, je te présente mon top 3 des publicités. Okay. Fait qu'on va choisir parmi ce top 3-là. OK? Mais si vous en avez d'autres, vous pouvez. Mais justement, choisir parmi ce top 3-là. Une qui me fait rire énormément, c'est la publicité de Pringle qu'on va commencer à écouter à l'instant même.
I'm so tired of boys. I need a man.
Tout à nain, boy.
C'est Sabrina Carpenter pour les auditeurs.
Et là, elle se fait une montagne de Pringle. Mais elle dessine, tu sais, ça devient le Monsieur Pringle. Et là, elle l'amène partout, au restaurant. Monsieur Pringle conduit, bon, on fait des accidents. Ça prend toujours une petite croquée de Monsieur Pringle. Vient pour s'envoler. Et ça va ainsi de suite, et ça se termine avec la mort de Monsieur Pringle qui se fait frapper par des fans de Sabrina Carpenter. Et là, au lieu de pleurer sa mort, elle mange des Pringles. Donc, j'ai trouvé vraiment le clin d'œil exceptionnel là, avec Sabrina Carpenter. Je l'ai bien aimé.
Puis c'est tellement ironique. C'est drôle, c'est léger comme pub. Puis je veux dire, je pense qu'il y a certaines personnes qui regardaient la pub et diraient « Ouais, moi aussi, je prendrais un Monsieur de Pringles qui me suit en permanence à la place d'un vrai. » Mais non, c'est, j'ai beaucoup aimé la publicité.
Vraiment. Sûrement la publicité la plus agressive, celle de Pepsi. L'ours polaire qui boit du Pepsi. Et qui a bu du Coke et qui choisit le Pepsi.
You're not the only one.
Et là, il se retrouve sur la chaise du psychologue. T'es pas le seul à choisir Pepsi.
C'est tellement du génie, là, parce que au début, c'est vraiment un blind test de l'ours polaire que l'ours polaire fait pis, entre Pepsi et Coke, puis choisit Pepsi, puis après ça, on le voit remettre sa vie au complet en question parce qu'il a choisi Pepsi, justement. Je trouve ça vraiment... Ces deux compagnies-là se lancent toujours des flèches l'une contre l'autre, là. Mais ça, c'est vraiment brillant comme publicité.
Ah oui, celle-là, elle était vraiment écœurante. L'ours polaire Pepsi au Super Bowl. Et la dernière, elle m'a vraiment fait rire. Et c'est vraiment les 30 dernières secondes qui m'ont fait rire. C'est Dunkin' Donuts, où on y va avec le destin de Will Hunting, Ben Affleck qui est là. Et là, on se retrouve dans un Dunkin' Donuts, on l'écoute.
Don't you have a girlfriend?
On montre la photo de Jennifer Aniston.
I don't need her. I still got everything I need right here at Dunkin'.
Hey, kid, if you're still single doing this Boston shtick and working for Dunkin' when you're 50, I'm gonna be very disappointed.
Isn't that your girlfriend? You like donuts?
Yeah.
Well, this is my new boyfriend. How you like these nuts?
Jennifer Aniston qui apparaît dans la fenêtre du Dunkin' Donuts. C'est une super publicité parce qu'elle est des années 80, donc on vient tourner un peu en dérision le fait que Dunkin' Donuts est une vieille entreprise de café. Et là, bien Jennifer Aniston à la fin qui amène son nouveau chum, lui pète la tête dans la fenêtre et dit « T'aimes les donuts? » Ben ça tombe bien, moi j'aime ses nuts à lui.
Puis son nouveau chum qui était Tom Brady, donc
exactement.
Un vrai... Encore une fois, puis chaque année, j'ai l'impression que les compagnies surpassent tout le temps. La publicité, c'est un art. Puis de voir des compagnies qui mettent de l'énergie comme ça pour trouver la meilleure façon de se démarquer, parce que toutes les pubs le font. Fait qu'il faut toujours trouver la meilleure façon de se démarquer pour faire parler de soi au final.
Oui, exactement. Il faut toujours réussir ça. Pour cette raison, je donne la palme de la publicité à Pepsi cette année. C'était très audacieux de choisir l'ours polaire et de la façon que ça a été fait, un petit clin d'œil humoristique en même temps. J'ai vraiment adoré la publicité. Je leur donne la mention d'honneur. Même si j'ai plus ri avec Dunkin' Donuts, là, je dois l'avouer, mais le côté, justement, très poussé, très compétitif de Pepsi m'amène à décerner là, le prix de la meilleure publicité. À l'ours polaire Pepsi.
J'ai pas le choix d'être d'accord avec toi, Jeff, pour celle-là. Si vous l'avez pas vu, allez la voir sur Internet. Là, c'est excellent. Il y a d'autres bonnes publicités. Là. Il y a Xfinity, qui est une compagnie de réseau qui aurait fait Jurassic Park. Tout. Si vous voulez vous amuser, là, il y a beaucoup de bonnes publicités cette année au Super Bowl.
Exactement. Donc, 418-971-1021, parlez-nous de vos publicités que vous avez préférées pour le Super Bowl. Et on se rappelle que le show de Bad Bunny à la mi-temps fait beaucoup jaser, notamment l'administration de Donald Trump. Dans un instant, à Boulevard 101, l'émission On en jase, on fait le tour de vos manchettes principales pour que vous soyez bien informés en débutant l'après-midi. Puis on va parler un petit peu de sport également. Autre médaille de bronze pour le Canada en matinée. Restez avec nous.
jase.
Vous êtes à l'émission d'En jase sur Boulevard 101, précisément 13h48, comme à l'habitude. C'est le retour de Gravel qui suit avec Denis, Véro et Audrey. C'est à compter de 14h, c'est jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, il y aura, entre autres, la chronique judiciaire avec Judith Demel. Manquez pas non plus le top de sport avec Gab Marino. Marceau, le soir à 18h, comme à chaque lundi, c'est avec Maître Marc Bellemare. Et à 19h, je vous rappelle, la série podcast hors série, c'est Table ronde sur l'amour avec Denis Gravel, Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Ben oui! Notre Véro est rendu en amour, Audrey a changé de chum, puis Denis est avec sa blonde à la maison à cette heure.
Ça a bougé.
Ça a changé en 3 ans, quand il avait parlé d'amour pour la première fois. Ouais, ça a changé beaucoup. Donc, écoutez ça va être très intéressant. Apparemment, qu'il y a des belles émotions qui ressortent.
Ah ouais, ben ça au moins des belles émotions dans tous les sens du terme.
Dans tous les sens du terme.
À connaître les trois personnalités, j'en doute pas qu'à certains moments, ouais, ça devait être pas pire drôle aussi.
J'ai entendu dire qu'il y avait des émotions chez la petite Pinchot.
Ah ouais?
Ah, c'est ce que j'ai entendu. Mathias, moi, je trippe sur les Olympiques. Une raison pourquoi je trippe sur les Olympiques, c'est pour des moments comme ça.
Elle doit aller chercher 8 dixièmes à l'italienne dans ce dernier tour.
Attention, croisement, donc, c'est bon. Alors, Valérie peut prendre l'aspiration légère. Et l'italienne qui...
Dans des grandes occasions, Lolo Brigida, comme il y a 4 ans à Pékin, arrivera-t-elle peut-être à monter sur ce podium olympique? Elle gagnera certainement cette paire. Lolo Brigida donne tout. 3,54,28! Record olympique pour Francesca Lolo Brigida. Wow! Et Valérie Maltais, excellent temps. 3,56,93.
Et ça lui a donné la médaille de bronze, Mathias. Sa première médaille à ses 5e Jeux olympiques en 35 ans. C'est tout simplement exceptionnel.
Sa première médaille individuelle, elle a eu d'autres médailles en équipe. Puis elle, en plus, elle a un parcours exceptionnel. Initialement, c'était une patineuse de vitesse courte piste qui a décidé de faire le switch entre les deux, qui est devenue une patineuse de vitesse longue piste. Mm-hmm. Puis c'est pas la même chose des deux. La façon de courir, la gestion de ton énergie, de tes coups de patin, c'est pas du tout pareil. Puis là, à 35 ans, elle arrive puis elle remporte sa première médaille individuelle. C'est toute une histoire.
Complètement exceptionnel. Le Canada a remporté une autre médaille ce matin, alors que c'était en ski acrobatique, en slopestyle. C'est Megal Holman, une jeune Ontarienne de 24 ans, qui a remporté la médaille de bronze. Donc, 2 médailles pour le Canada depuis le début des Jeux olympiques. Sinon, en actualité, qu'est-ce qu'on suit, Mathias?
Yes, on a appris malheureusement hier le décès du journaliste, animateur et chroniqueur Franco Nuevo. Nuovo, excusez-moi, 72 ans. Pendant plus de 50 ans, il a eu une présence constante dans les médias québécois. Là. Puis c'était un grand animateur. Là. Il animait notamment l'émission Dessine-moi un dimanche, toujours sur les ondes d'ici première qu'il dirigeait depuis maintenant 2011. Il a été 30 ans au Journal de Montréal. Donc c'est un grand homme des médias que le Québec a perdu hier.
Ah oui, alors nos sympathies à la famille. C'est vraiment une perte subite du coup de cette belle famille.
Des vols à destination de Cuba commencent à être annulés. Là. Je tiens à dire, la majorité des vols ont toujours lieu, mais c'est Air Canada qui commence à annuler des vols. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'avitaillement en kérosène, qui est l'essence pour avions. À Cuba, justement, on voit qu'il commence à avoir des manques dans plusieurs aspects de nourriture. Là, c'est carburant pour avions, justement. Puis, selon un avis opérationnel, c'est un manque qui imminent de carburant à partir de demain. Donc, vraiment, c'est une situation qui va évoluer au cours des prochaines heures, des prochains jours. C'est sûr que les vols de retour depuis Cuba vers le Canada ont toujours lieu, bien sûr. Il faut ramener le monde au pays, on n'a pas le choix. Mais ça commence à devenir de plus en plus inquiétant ce qu'on voit du côté de Cuba. Carmel Enfant qui a annoncé faire une conférence de presse mercredi.
Il a peur du rapport du 16 février, Monsieur Malenfant.
Ça ressemble à ça. Là, je vous le rappelle, Carmel Enfant qui était le vice-président de la transformation numérique du côté de la SAAC durant le dossier de la SAAC. Là, c'était probablement son nom qui s'est fait le plus martyrisé. Là, j'ai envie de dire, durant la commission Galant, c'était beaucoup son nom qui ressortait. Donc, il fait une sorte de conférence pour dire pourquoi il a pris ses décisions, puis mettre des preuves que ses décisions, au final, n'étaient pas si pires que ça. On le rappelle, le rapport de la commission Galant qui va être rendu public ce lundi prochain, le 16 février. T'en parlais, on en parlait durant la pause, Ghislaine Maxwell qui s'est rendue devant la commission parlementaire démocrate à l'effigie justement des dossiers Epstein, elle qui était la complice de Jeffrey Epstein durant plusieurs années. Elle purge présentement une peine de 20 ans, puis elle a refusé de répondre aux questions de la commission. Là, ses avocats avaient déjà dit qu'elle invoquerait son droit de garder le silence. Il y avait une entente qui avait tenté d'être faite justement entre les avocats de Ghislaine puis cette fameuse commission-là sur tous les dossiers Epstein qui sont révélés, des millions et des millions de documents, là, littéralement, qui sont rendus publics sur Internet. On n'avait pas réussi à arriver à un accord. Donc, du côté de Ghislaine Maxwell, on a dit tout simplement, on ne va pas parler.
Les prochains seront les Clinton à se présenter à cette commission parlementaire-là. Bien hâte de voir ce qui va en sortir de leur témoignage.
Puis ça, c'est attendu parce qu'initialement, Bill Clinton et Hillary qui avaient refusé d'aller témoigner, puis finalement... Mm-hmm. Après avoir reçu beaucoup de pression, exactement, notamment du côté du Parti démocrate, on a accepté de venir devant la commission. L'ex-ministre François Bonnardel, qui a été ministre sous la CAQ des Transports et de la Sécurité publique, a annoncé son appui à Christine Fréchette dans la course de la direction de la coalition Avenir Québec. Puis ça, c'est un gros appui parce que François Bonnardel est le dernier, bien, du moins le dernier qu'on met sur la place. Ouais, Anthony nous a parlé d'Éric Kerr tout à l'heure.
Mais mettons, Éric Kerr se représentera pas, puis Éric Kerr a disparu du paysage politique en même temps que la commission Galland a commencé.
On peut dire que François Bonnardel, c'est le dernier ADQ, donc vraiment le dernier représentant officiel de l'ADQ au sein de la CAQ. Donc son appui en veut dire beaucoup sur tout ce qui est aspect centre-droit plus économique par rapport à cette course à la chefferie. Puis c'est un appui qui fait mal à Bernard Drinville parce que depuis le début de la course, on tente de se positionner comme le fameux candidat de centre-droit.
Ouais. Bernard, le centre-droitiste.
Je termine avec un sondage Somme le soleil sur le troisième lien. Seulement 27% des habitants de la région de Québec qui ont confiance de voir un jour, ben en fait, de voir au cours des 15 prochaines années le troisième lien se réaliser. Donc peu à peu, on voit le monde de la région abandonner espoir envers ce projet-là, alors que la CAQ vire de bord là, à tout bout de champ. Là. Projet de troisième lien uniquement pour le transport en commun, un tunnel centre-ville à centre-ville. Là, le tracé central qui est mis sur pause par Jonathan Julien, on ne sait plus où donner de la tête.
Oh non, on ne sait plus où donner de la tête dans ce dossier-là. On en jase demain 13h, manquez pas notre entrevue avec Nicolas Girard, directeur général du RTC, le ministre du Transport, Jonathan Julien, qui a annoncé aujourd'hui un retour pour l'acquisition d'autobus urbains hybrides. Donc, il met fin à cette obligation d'électrification. On va jaser de ceci avec Nicolas Girard et également du déficit du RTC. Le retour de Gravel dessus à l'instant même avec Denis Verrier et Audrey. Mathias, merci beaucoup pour l'émission. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se parle demain à midi.
Yes, sir. À demain.
Salut, guys.